Née par césarienne, puis nourrie au lait de vache et aux antibiotiques, Marion Kaplan a très tôt déclaré des allergies, intolérance, surpoids, fatigue et dépression. Pour guérir de ses problèmes de santé, elle a tout testé. Du végétarisme au crudivorisme, avant de goûter au paléo et au régime cétogène qu'elle suit depuis quelques semaines. De cette quête est née une passion pour la nutrition, la cuisine des saveurs et la magie du corps humain. Des connaissances, guidées par la curiosité et ancrées dans l'expérimentation, qu'elle partage depuis plus de 30 ans à ceux qui cherchent la pleine vitalité. Citons pêle-mêle le vitaliseur de Marion, le livre paléobiotique, les 80 000 abonnés de sa chaîne YouTube, ou encore son émission Bionutrition sur Nutri Radio. Dans cet épisode 360 degrés, nous parlons des avantages des différents régimes alimentaires, des problèmes liés aux lectines ou au gluten, de ses premiers pas dans le cétogène, de la révolution en cours avec la génomique, ou encore des compléments alimentaires indispensables. Bienvenue sur Limitless Project. Je suis David Nicolas, start-upper, athlète, père de famille et explorateur du potentiel humain. Belle écoute! Bonjour Marion.
Bonjour.
Écoute,
et bonjour à tout le monde.
Écoute, j'aime bien démarrer ce podcast par un petit check-in où tu me racontes un petit peu l'énergie avec laquelle tu viens ce matin.
L'énergie avec laquelle je viens ce matin, c'est cet enthousiasme comme le tien de partager mes connaissances. Il se trouve que, étant dans ma 68e année, tu penses bien que j'ai exploré beaucoup, beaucoup de paysages alimentaires. Parce que je n'ai pas eu la chance d'être en bonne santé très tôt, puisque très tôt, péritonite aiguë à l'âge de 10-11 ans, ensuite tous les problèmes de la terre, de constipation, de dépression, de boutons sur la tronche, de fatigue. Quand t'es petit, tu sais pas quoi. Et petit à petit, la conscience s'élève et tu fais des rencontres. Et donc, j'ai fait des rencontres. Et à l'âge de 15 ans, j'ai été végétalienne. On appelle ça les véganes aujourd'hui, quoique les véganes vont plus loin parce qu'ils portent même pas de chaussures en cuir, etc. Ce qui n'était pas mon cas. Mais l'expérience de 3 ans de véganisme a failli me coûter beaucoup de choses parce que j'ai commencé à avoir les dents qui se déchaussaient. Et ma mère m'a dit, bon, maintenant, t'arrêtes tes conneries, quoi. Ah, bon. OK, j'arrête mes conneries. Et en arrêtant mes conneries, je reprends l'alimentation de tout le monde. Et les migraines sont venues avec. Aïe, aïe, aïe. Les migraines, c'est rester 3 jours couché au lit dans le noir. Hein. C'est ce qu'on appelle vraiment la migraine, c'est pas la céphalée. Et là, j'ai dit, c'est pas possible. Il faut que je comprenne, quoi. Et même quand j'étais végane, l'histoire de la cuisson me turlupinait le cerveau parce que je disais, mais comment est-ce qu'on peut donner des éléments pour bien manger avec les nutriments et les détruire dans la cuisine? Il y a un truc qui va pas. Et donc, ça a toujours été une interrogation que j'avais mise de côté et j'ai trouvé la solution dans les années 80 avec ma rencontre, non seulement avec André Coquart, qui était un ingénieur qui avait plein de brevets à son actif, et qui s'était intéressé à la vapeur douce. Tu es trop jeune pour le savoir, mais à mon époque, dans les années 80, parce que je pense que tu es né plus tard.
91.
Ouais, voilà, là, comme ma fille, tiens. Et dans les années 80, il n'y avait que la cocotte minute. Alors, la cocotte minute, c'est très bien pour les lentilles et les pois chiches, pour éliminer les lectines, et ça, on en parlera tout à l'heure. Mais pour le reste, ça détruit tout. Hein. Ça précipite les sels minéraux qui deviennent inassimilables, ça détruit les vitamines, enfin, c'est un bouillon de culture, quoi. Donc, la cuisson à la vapeur douce, pour moi, a été un eureka extraordinaire, et même sur le plan digestif. Donc ça, c'est pour te le dire, parce que ça a été des rencontres importantes. Et d'ailleurs, avec Coquart, on est allé voir le professeur Henri Joyeux, qui a beaucoup de difficultés en ce moment avec le Conseil de l'Ordre. Et pourtant, c'est un monsieur qui passe la bonne parole au grand public pour dire « Hé, les mecs, si votre mode de vie et votre alimentation étaient liés à vos maladies, ce serait peut-être intéressant de les remettre en question ». Voilà, bon, mais aujourd'hui, dans nos pays, c'est l'argent qui compte et c'est souvent les lobbies qui maîtrisent le marché, qui maîtrisent les études. On a bien vu que dans l'Ancet magazine, il y avait eu des fausses études. C'est scandaleux tout ça. Donc, on ne peut s'appuyer sur pas grand-chose. Et c'est tout le sujet de ce qu'on va partager aujourd'hui avec toi, David. C'est que faites-nous confiance parce que, évidemment, il y a tellement de paysages alimentaires, il y a tellement de régimes, il y a tellement de doctrines très intégriste, hein. Pour moi, les doctrines trop, c'est le véganisme, c'est le tout manger cru. Voilà. Si on est flexitarien, c'est plutôt pas mal. Mais après, j'invite les gens à retrouver nos lives avec Georges Mouton sur les APOE, parce que maintenant, on a accès à notre génome pour quelques centaines d'euros, alors qu'à l'époque, ça coûtait 12 000 euros pour le faire. Donc aujourd'hui, c'est accessible. Et l'étude du génome, c'est quelque chose qui changera jamais comme votre groupe sanguin. On le fait une fois dans sa vie et on connaît les limites à ne pas dépasser en fonction de nous-mêmes. Donc, on va pas écouter les études de ci, de ci, de ça, puisque nous-mêmes, nous avons des fragilités sur certains plans et des renforcements, des atouts d'un autre plan. Donc ça, vous avez compris que je peux pas donner une alimentation pour tout le monde, puisque nous sommes tous différents, non seulement avec un génome différent, mais en plus avec un microbiote différent, mais en plus avec une histoire transgénérationnelle différente, un environnement psycho-affectif différent. Vous imaginez tout ce qui va interférer avec notre santé, notre mode de vie, notre ouverture de conscience, nos prises de conscience, parce qu'on a des scénarios de vie qui sont différents. Et je rejoins pour ça, on fait des études, il y a des études en astrologie qui peuvent être très intéressantes, et comprendre un peu comment tout ça, ça fonctionne, quoi, pour être un être humain et en santé et être utile sur cette planète Terre qui en a grand besoin. Voilà, David, mon introduction.
Merci Marion pour ce petit check-in. Je te fais le mien. Écoute, c'est un véritable honneur de te recevoir sur Limitless Project, parce qu'en réalité, tu fais partie de ma vie et de ma cuisine depuis de nombreuses années. J'ai acheté le Vitaliseur. En fait, initialement, c'est ma maman qui m'a offert, d'ailleurs, grand merci à elle, le Vitaliseur de Marion. Ce cuivapeur qui, au début, était là et je me disais, bon, voilà, c'est une casserole, je comprends pas que ça puisse valoir 300 balles. Et puis, excuse-moi. Et oui, non, mais j'imagine, je suis pas là pour réduire le travail que t'as effectué derrière. Et d'ailleurs, je vais en vanter les bienfaits tout de suite après. Donc, et puis au final, je suis petit à petit tombé amoureux de cet objet qui, au final, rentrait pas dans mes placards. J'avais à ce moment-là une petite cuisine, tu vois, d'étudiant, et donc je laissais tout le temps sur magazine. Mais voilà, exactement, je laissais sur magasinière. Et puis j'ai commencé à tout faire avec. Et en fait, outre les bienfaits nutritionnels, parce que j'ai commencé à l'utiliser à un moment où en réalité je m'intéressais même pas encore à la nutrition. Mais outre les bienfaits nutritionnels, il y a aussi une espèce de praticité où moi je m'embête même pas à regarder des recettes, etc. Je coupe mes légumes, je les mets dedans, je laisse à peu près 20 minutes de temps en temps, je regarde un petit peu si ça a l'air tendre ou pas. Paf, je les prends, je mets un filet d'huile d'olive, un peu de sel, un peu d'herbes de Provence, etc. Les légumes sont délicieux et en fait ça te permet de pas te prendre la tête. En 20 minutes, t'as un repas qui est sain, qui est cuit, qui est délicieux. Bon, en plus, tu pourras revenir dessus, qui d'un point de vue nutritionnel permet de préserver un tas d'antioxydants, de micronutriments, etc.
Et t'as essayé la viande ou pas?
Oui, je fais aussi mon poulet dedans, donc je fais vraiment plein de choses. Mon poisson, le poisson est excellent, d'une tendresse incroyable, donc vraiment j'en vante les mérites. Et figure-toi que quand donc ma fille est née à 2 ans et demi, elle va avoir 3 ans, lorsqu'elle est née, je me suis dit je vais peut-être m'acheter un Thermomix, parce que comme ça je pourrais faire plein de choses avec, des petits pots bébés, etc., machin. Et donc je me suis acheté un Thermomix, j'ai revendu mon Vitaliseur. Alors notons quand même que ton Vitaliseur est tellement prisé que je l'ai revendu en 2 secondes. Les gens se battaient littéralement sur le bon coin pour me le racheter. Alors là, je me suis dit, bon, j'aurais dû le vendre plus cher, soit. Et donc, je me suis retrouvé avec un Thermomix. Je l'ai gardé peut-être 3 mois ou 4 mois et je l'ai revendu pour me racheter ton Vitaliseur, qui maintenant fait toujours autant partie de mon quotidien. Et donc, j'en parle d'ailleurs souvent sur ces podcasts, même dans mes newsletters, etc. Tu sais, parfois, je suis souvent invité sur d'autres podcasts pour parler un petit peu de mon exploration du potentiel humain. Et il y a une question qui revient de temps en temps, qui est s'il y avait un outil que tu voudrais, que tu as acheté, qui a changé ton quotidien et que tu voudrais conseiller aux auditeurs, quel serait-il? Et je réponds, le Vitaliseur de Marion.
Super, merci. Hein. Mais tu vois, le Thermomix, c'est pas mal pour mixer. Quand tu veux mixer des potages ou des purées ou des choses comme ça, ou faire tes laits d'amande, tes purées d'amande, c'est très bien. Mais voilà, moi, je m'en sers. Enfin, j'en ai pas, moi. Mais j'en avais un, je l'ai donné à ma fille pour mixer pour sa petite fille. Mais sinon, et maintenir au chaud à 40 degrés, tu vois, voilà. Mais sinon, bon.
Tu veux nous expliquer pourquoi est-ce que le prisme de la cuisson t'a tant intéressé et comment t'en es venu à créer le Vitaliseur?
Bah parce que au fur et à mesure où on étudie, parce que alors là j'ai étudié toute ma vie et je continue d'ailleurs. Maintenant, je suis plus dans la micronutrition, dans l'étude génomique, un peu comme toi, hein, c'est la passion de comprendre. Et plus je comprends, plus je m'aperçois que j'avais raison il y a très 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 longtemps, et que tout ce qu'on découvre aujourd'hui ne fait que me conforter dans tout ce que j'ai trouvé. Et d'abord, la cuisson a été une interrogation, parce que tu sais qu'il y a la réaction de Maillard, cette réaction qui tue les souris, hein. Donc, quand en laboratoire, on fait des cuissons et cette réaction de Monsieur Maillard fait que les protéines et le sucre s'agglutinent et se caramélisent. D'ailleurs, on caramélise déjà naturellement dans notre corps, c'est pas la peine d'en rajouter. Et donc, cette caramélisation est vraiment toxique pour nos muqueuses. Donc, on mange un poulet rôti de temps en temps, bien sûr, et j'en mange de temps en temps des poulets rôtis. Mais franchement, je préfère la cuisson du poulet au Vitaliseur, parce que la peau du poulet est très riche en collagène, et ces collagènes sont, on va dire, assimilables, biodisponibles, parce qu'ils n'ont pas cette réaction de Maillard, et cette réaction de Maillard, je la fuis comme la peste. Donc je prends un peu de Maillard, mais comme tout le monde, hein, mais je l'évite à 80% dans mon alimentation. Donc comment préserver, ça a toujours été une interrogation, parce que je me suis intéressée aux travaux de Marcel Violet sur les ondes biologiques, à Kervran sur les transmutations biologiques à faible énergie, les travaux de Simonetton sur justement la radiovitalité des aliments. Tout ça a été des interrogations qui sont oubliées aujourd'hui. Et quand j'ai conçu le Vitaliseur avec Cocard, parce que je suis allée plus loin après, il est mort en 87 ou 88, je sais plus. Et là, j'ai pu aller dans les prismes que je voulais, c'est-à-dire travailler sur la suite de Fibonacci, qu'on appelle le nombre d'or que j'ai mis dans le tamis, c'est-à-dire les trous, le diamètre des trous est étudié en fonction de la circonférence, mais aussi dans les proportions marmite tamis couvert. Quand on le regarde, ce vitaliseur, à l'œil, il est équilibré. Le nombre d'or, il nous équilibre. C'est une onde de forme. Donc, on n'y croit pas, je m'en fous. Moi, j'ai mis ces paramètres-là. Il se trouve que j'ai fait des analyses en laboratoire pour démontrer. Alors, la première analyse, c'était laboratoire Wolf, mais je me suis aperçu qu'il n'existait plus aujourd'hui. Mais j'ai toujours les résultats imprimés sur la vitamine C. Parce qu'il faut que vous sachiez, quand on vous vend un matériel en vous disant « oui, les vitamines sont préservées », ok, prenez les vitamines les plus thermosensible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que certaines vitamines, par exemple la A, les autres B que B1, elles supportent très bien la cuisson, mais la B1 et la C ne le supportent pas. Et on vous dit, la vitamine C, elle s'évanouit à 40 degrés. Ah non, oui et non. Parce que quand ils ont fait ça il y a 50 ans, ils faisaient des analyses en autoclave, et il se trouve que c'était le milieu de cuisson est important. Et je vais vous donner l'exemple d'un hammam, d'un sauna et d'une baignoire. Vous rentrez pas dans une baignoire à plus de 42 degrés, vous vous brûlez, hein. Vous rentrez pas, vous êtes cuit comme un homard. Enfin, vous pouvez pas rentrer dedans. Alors que un hammam à 42 degrés, moi j'ai froid. Il faut monter la température pour avoir chaud et pour commencer à transpirer. Un sauna, moi j'ai pris des saunas à 110 degrés et je suis pas cuite. Bon, je ne vais pas rester trop longtemps non plus. Mais vous restez 10 minutes à 110 degrés, il n'y a pas de souci, moi j'ai déjà fait, hein. Donc, le milieu dans lequel on va analyser l'impact de la cuisson sur l'aliment va compter énormément. Et ça, ils n'en tiennent pas compte. Donc, quand j'ai sorti les analyses et que j'avais même plus de vitamine C après cuisson qu'avant, je me dis, attends, c'est quoi ce truc-là? Comment ça se fait qu'il y en a plus? C'est pas possible, j'en fabrique pas. Alors les laborantins se sont posé des questions et ils se sont dit, ah bah oui, parce qu'il y a une plus grande concentration du fait de l'attendrissement des fibres, et elle est donc plus biodisponible. Donc non seulement on a autant de vitamine C, mais elle est en plus biodisponible. Parce que sinon elle peut être engrammée dans des fibres cellulosiques. Vous savez très bien qu'on n'a pas de cellulase et qu'on ne sait pas digérer les fibres. On le sait maintenant qu'elles sont très importantes pour notre microbiote, parce que ce sont les bactéries qui vont s'en occuper. Mais pour ça, il faut avoir un microbiote efficace, des acides gras courte chaîne efficaces, etc., etc. Donc, pour moi, et j'ai fait aussi ça pour la B1, et pareil. Donc, je démontre que ce que nous donne la nature est préservé par une cuisson douce. Évidemment, vous n'allez pas cuire pendant 2 heures. Donc, moi, je préfère cuire un petit peu al dente les légumes, sauf certains comme les pommes de terre, mais j'en mange plus puisque je suis au cétogène depuis un mois et demi, parce que je ne peux parler que de ce que je connais. Donc, je ne mange plus de pommes de terre. Mais les pommes de terre, je vous conseille de beaucoup les cuire, de les refroidir au frigo donc une nuit pour les reconsommer afin qu'elles fabriquent ce gel résistant, d'amidon résistant, qui fait baisser la glycémie et qui va nourrir votre microbiote. Et c'est vrai que les tubercules, je suis en train de réfléchir à ça par rapport aux cétogènes, parce que dans l'alimentation cétogène, si tu veux, on en reparlera tout à l'heure, parce que je suis en pleine expérience là-dedans, c'est qu'on va manquer de potassium. Et les légumes qu'on va consommer en cétogène sont trop pauvres en potassium, puisqu'on va pas manger d'agrumes, qui peuvent aussi être acidifiants, quand on a des glycémiques trop élevées. C'est compliqué, hein. Donc, moi, je prends des sels de potassium sous forme de bicarbonate de potassium. Mais bon, voilà. C'est des petites interrogations pour être fin, faire de la haute couture pour soi-même. Et donc, la cuisson, pour moi, est le chaînon manquant entre toutes les doctrines, toutes, qu'elles soient cétogènes, méditerranéennes. C'est pour ça que le professeur Joyeux, d'ailleurs, conseille le vitaliseur, et il l'a dans toute sa famille, et il n'a aucun conflit d'intérêt, je veux le dire. Il ne touche rien du tout. Je lui en offre un de temps en temps quand il a besoin pour un petit enfant, c'est tout. Donc, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, c'est très important de comprendre qu'on va conseiller quelque chose et c'est mieux de savoir quels sont les conflits d'intérêts derrière. Moi, évidemment, j'ai un conflit d'intérêt. Pour ça que pour moi, c'est les gens qui l'utilisent qui sont mes meilleurs passeurs de messages, parce que moi, j'ai un conflit d'intérêt, évidemment. Mais je suis comme toi, sur une île déserte, qu'est-ce que j'amènerais? Mon vitaliseur. Et c'est pour ça que je l'appelais le petit Robinson. C'est avec cette interrogation-là.
Ouais, écoute, je pense qu'en tout cas ta communauté parle d'elle-même. Il suffit de voir un petit peu toute cette émulation qui s'est créée autour du Vitaliseur et qui est devenue une institution au fur et à mesure du temps. C'est quand même assez incroyable et ça pourrait être un cas d'école en école de commerce parce que je trouve que c'est une belle histoire. Ceci étant, nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt cette physiologie humaine. T'as cité plein de choses hyper intéressantes. Je retiens notamment le fait que, tu vois, le fait de cuire des choses, évidemment, tu peux dénaturer certaines protéines, certains micronutriments, etc. Et tu l'as montré, ou les amplifier. Et donc, ça a été ta surprise avec la vitamine C. Mais on sait notamment que la cuisson peut améliorer le statut en antioxydant de certaines molécules. Donc il y a des avantages à la cuisson. Et puis, il y a peut-être des avantages aussi à manger cru. Et on en revient un petit peu au conseil que tu donnais à la base, qui était peut-être d'être flexitarien, de manger parfois cru, parfois cuit, d'apporter de la variété. Et tu parlais de la peau de ton poulet. Figure-toi que moi, j'utilise mon vitaliseur comme une cuve aussi pour faire du bouillon d'os. Donc, je garde mes carcasses du poulet, y compris la tête, tous les os, etc. Je mets tout ça avec de l'eau, des herbes, un peu de vinaigre, de cidre. Et puis du sel, je laisse bouillir 18 heures à peu près, donc toute la nuit jusqu'au lendemain midi. Je filtre ça et ça me fait je mets 4-5 carcasses de poulet, peut-être 4 litres d'eau, donc ça m'en fait une bonne quantité. Je remplis mon congélateur après. Et puis voilà. J'utilise mon bouillon d'os pour ajouter dans des soupes. Si je fais cuire du millet ou des choses comme ça, ça donne du goût. Je le mange comme ça aussi, peut-être simplement comme bouillon, tu vois. Et donc c'est une source hyper intéressante. Tu parlais de collagène, mais aussi de glycine. Glycine qui effectivement est un acide aminé semi-essentiel. Donc on se dit c'est pas grave, le corps est capable d'en faire. Oui, mais si tu regardes les études, en réalité il est capable d'en faire, je crois, dans les 2,5 grammes par jour, alors qu'il lui en faudrait 10 ou 12. Et la glycine est impliquée dans plein de processus, que ce soit au niveau de la synthèse justement du collagène, ou même dans tous les cycles de méthylation avec la méthionine, etc. Donc voilà, donc une autre utilisation détournée du vitaliseur, pour le coup, c'est qu'il est super grand et donc ça me permet de faire des tonnes de bouillon d'os, tu vois.
Et tu sais, David, en 1985, donc tu n'étais pas né.
J'interromps ce podcast pour te partager deux techniques flash que tout le monde devrait connaître. La première, le soupir physiologique, est validé par Harvard comme l'outil le plus rapide et le plus efficace pour réguler le stress. La seconde, Uddiyana Bandha, peut réellement améliorer ta digestion et la qualité d'assimilation des nutriments. Je t'explique comment les pratiquer dans ma newsletter gratuite, dont le lien est en description. Alors mets cet épisode sur pause, abonne-toi et reviens ensuite.
J'ai sorti mon premier livre de cuisine avec André Coquard qui s'appelle « La cuisine à la vapeur de Marion » et les bouillons étaient très importants. On expliquait parce que tout ça, tous les gens, ils nous copient maintenant. Mais moi, 85, mon premier livre. Et pour nous, les bouillons, c'était la base, non seulement des sauces, bien sûr, mais pour la santé, puisque la viande est démunie de sels minéraux, etc. Et donc, on disait que c'était très important. On appelait ça des fonds de poisson, des fonds de viande, etc., qui, tu te rends compte, ont été interdits dans les restaurants parce qu'ils estimaient que c'était des bouillons de culture. Donc, je ne sais pas où sont les législations aujourd'hui, mais c'est vrai que j'invite les gens à faire des bouillons d'os, mais ça devient compliqué. Moi, j'ai un boucher que je connais bien maintenant. Je dis, écoutez, s'il vous plaît, gardez-moi des os et même des pieds de cochon, des choses comme ça, qui sont très riches en collagène, parce que les bouchers, ils ont plus d'os. Parce que l'écarisseur, ils passent le lundi soir ou le mardi, ils ont plus d'os, les bouchers. Je sais pas si tu te rends compte. Donc, il faut être bien avec un boucher. Bon, vos poulets garder les carcasses, etc. C'est incroyable que ça devient compliqué d'avoir des os pour faire nos bouillons. Enfin, et les bouillons sont essentiels, comme tu le fais. Après, tu les fais réduire en demi-glace et en glace. Tout ça, c'est expliqué dans mon premier livre, qu'on trouve encore sur Internet.
Et paléobiotique.
Dans paléobiotique, bien sûr, je l'ai remis. Je le remets à chacun de mes bouquins. Et paléobiotique, fais gaffe parce qu'il est presque épuisé. Hein. C'est celui-là. Il est presque épuisé, donc pour ceux qui le veulent encore, parce qu'on fera une réédition différente avec un autre titre, et il est aussi dans Power Biotique, chez Très Daniel, et j'ai mes recettes. Je fais de la pub, hein, conflit d'intérêts, je suis désolée, mais j'écris pas comme ça. Vous savez, vu ce qu'on gagne avec un bouquin, on gagne même pas un euro. Il faut faire des millions d'exemplaires, comme Jessie Enchauspé, pour gagner sa vie avec ça. Moi, je le fais pour passer le message et pour vous donner un peu de créativité, pour vous donner un peu d'autres idées que de passer des légumes vapeur avec juste un peu d'huile et du curcuma ou des épices. Parce qu'on aime bien recevoir, on aime bien changer, on aime bien donner des goûts différents. Donc, ça peut donner des idées, quoi. Voilà. Mais les bouillons, c'est essentiel. Donc, ceux qui n'ont pas l'envie ou le courage ou le temps de faire ces bouillons, je sais qu'il y a des sociétés qui vendent des bouillons d'os ou déshydratés ou en pot de verre, mais prenez des bouillons, quoi. Prenez des bouillons concentrés. C'est un concentré de collagène.
Donc, par rapport à tes livres, de toute façon, on mettra tous les liens, toutes les références dans l'article lié, donc les auditeurs qui ont envie de les retrouver pourront y accéder facilement. Tu l'as dit tout à l'heure, 68e année, tu as eu l'occasion d'explorer depuis tes 15 ans où tu as démarré par l'équivalent, l'historique du véganisme, et tu es passé par plein de régimes. Là, tu as cité paléobiotique qui est en réalité une version évoluée, peut-être moderne, du régime paléo qui inclut notamment la possibilité d'ajouter des légumineuses. Et maintenant, tu disais que tu testais le cétogène, probablement sous l'impulsion de tes analyses génétiques et du fait que peut-être tu es ApoE2. Je sais pas, je m'avance. Raconte-moi un petit peu cette exploration de ton alimentation, la façon dont tu l'as fait évoluer au fil des années pour en arriver là.
Alors déjà, j'avais des problèmes de poids, donc je prenais très très vite du poids. Et ça a toujours été un handicap esthétique pour moi, un complexe, parce que je prenais de la cellulite sur les cuisses et sur les fesses, et ça pour moi c'était insupportable. Et donc, j'ai tout fait, Scarsdale, Hollywood, c'est que des fruits, un seul fruit par jour, en quantité illimitée, etc. J'ai fait Montignac, j'ai fait Atkins, je les ai tous fait. Mais Atkins, j'étais pas prête à l'époque. Atkins, c'est l'antichambre du régime cétogène d'aujourd'hui, parce que le cétogène, ça fait plus de 150 ans qu'on connaît ce régime qui était fait pour les épileptiques. Mais outre les épileptiques, c'est une alimentation finalement que l'être humain connaît depuis qu'il existe. Hein. Je ne sais pas si tu veux qu'on aille sur le cétogène maintenant ou on.
Vas-y. Hein. C'est une conversation. Hein. Laisse-toi guider par ton instinct.
Donc ce cétogène, je dois dire que c'est un peu compliqué au départ parce que on est à contre-courant de la société. Les gens qui me connaissent savent que déjà je tapais très fort sur toutes les céréales. Puisque mon livre paléobiotique, j'élimine toutes les céréales, d'accord? Dans ma phase 1, parce qu'il y a trois phases, ma phase 1 est une phase 1 cétogène, mais avec pas assez de gras, d'accord? Et c'est ça que je vais nuancer dans le prochain. Mais la phase 1, j'élimine toutes les légumineuses, lentilles, pois chiches, et toutes les céréales et tous les amidons. Donc, on est au cétogène. Hein. Et c'est une alimentation qui, finalement, je vais d'ailleurs faire un congrès en le dernier week-end d'octobre à Marseille. Je te le dis en avant-garde parce que ça y est, c'est dans les tuyaux. On a réservé la salle à Marseille, une magnifique salle du Pharo. Et justement, je vais inviter des paléo-anthropologues géniaux, des gens qui travaillent sur la génomique. Je veux absolument vous montrer que d'abord, nous sommes les seuls êtres sur la planète à pouvoir nous adapter à tout type de climat et à tout type d'alimentation. Les Inuits, ben, ils bouffent que du poisson gras parce qu'ils n'ont pas de légumes. Hein. Donc, leur microbiote et leur génome, je pense qu'ils sont APOE2E2, est tout à fait adapté à ce type d'alimentation. Il y a les gens qui sont allés à l'Himalaya à plus de 5000 mètres d'altitude et qui ont petit à petit muté et leur génome s'est adapté à avoir une moindre oxygénation. Nous, on monte à 6000 mètres, on crève, hein, il nous faut un maximum d'oxygène. Eux, ils sont adaptés. Il y a ceux au Kenya, là, les Maasai qui, eux, boivent le lait de leur chamelle ou parce que ben, ils ont que ça, parce que les légumes ne poussent pas dans le désert. Donc, eux, leur génotype est tout à fait adapté à ce type d'alimentation, etc., etc. Allez faire manger du blé à un Asiatique et des produits laitiers, le résultat, vous allez en Chine, il y a énormément de problèmes de diabète et d'obésité qu'ils n'avaient pas avant. Parce que leur génotype était fait pour manger du canard, du poisson, enfin, finalement assez proche du paléolithique et de nos gènes d'avant. Et petit à petit, on veut leur imposer le modèle américain. Quand je suis allée en 89 à Pékin, j'ai vu il y avait aucun building. Hein. Le seul building qu'il y avait, c'était un McDo. Un McDo. Tout le reste, c'était des petites maisons type favela, vraiment les pauvres, ils étaient vraiment sur la terre, machin, avec un toit en tout ondulé et puis une antenne télé. Voilà. Et ils étaient tous habillés pareil, en 89. Je pars de l'avion et là, il a commencé à y avoir les révolutions des étudiants chinois, etc. Et là, heureusement, je suis partie. Et depuis, je ne reconnaîtrai plus la Chine. Une usine sur pattes avec des gens qui doivent travailler à la schlag, qui se marient dans leur usine, c'est dramatique. Enfin bon, moi ce modèle ne m'intéresse pas du tout, mais ils commencent à adopter le modèle américain. Et vous avez bien vu que ce modèle américain ne crée que de l'obésité, du diabète, des sénilités et du diabète type 3, Alzheimer et compagnie. Donc c'est vraiment vraiment pas le modèle à adopter. Avec, en plus, après la guerre, grâce aux expériences qu'ils ont faites pendant la guerre sur des gaz, ils ont mis au point des pesticides. Et on le sait aujourd'hui que ces fameux pesticides et ce glyphosate, qui est un scandale sanitaire mondial, puisque l'OMS l'a classifié cancérigène, ils viennent de nous en remettre pour 10 ans. D'accord? Donc, manger biologique va être une obligation. Si vous avez la chance d'avoir un jardin, mettez votre purin d'ortie et compagnie, débrouillez-vous, faites de la permaculture, parce que on est dans un environnement dangereux et des gens comme nous, eh ben, on vous donne la bonne parole, vous suivez ou vous suivez pas, ça devient votre problème. Nous, ce qu'on veut, on l'a adopté pour nous et on vous dit, voilà, il y a des solutions pour sortir de vos maladies, pour avoir la patate. Moi, j'ai une vitalité, je fais du vélo le matin, pas là parce qu'il a plu ce matin, là, c'est en train de se lever. Mais l'exercice physique fait partie intégrante du mode de vie d'un être humain, parce qu'un être humain, il allait chasser le ventre vide, un être humain, il allait pêcher, les femmes allaient ramasser les brindilles, elles cueillaient les champignons, les tubercules quand il y en avait dans certains pays. On est sorti d'Afrique il y a 60 000 ans, mais il faut savoir que même si on a pu coloniser la planète parce qu'on s'adapte à tout, on ne s'adapte pas à la surabondance. On ne s'adapte pas aux produits chimiques, on ne s'adapte pas à 4 repas par jour et on ne s'adapte pas à tous ces aliments ultra transformés et on ne s'adapte pas au sucre et on ne s'adapte pas à ces fruits joufflus bourrés de fructose, parce que notre pancréas, qui lui est l'organe qui va déterminer votre vie, toute votre vie, on ne peut pas toucher au pancréas, on ne peut pas y toucher. Le pancréas, chez moi, il doit peser 80 grammes. Et je le redis, sur ces 80 grammes, 5% seulement vont être utilisés. 5%, c'est-à-dire 4 grammes pour moi. Et ces 4 grammes, c'est l'insuline. Et c'est l'insuline qui va déterminer si on va vous couper un pied ou pas, si vous allez vous enlever un rein ou pas, si vous allez caraméliser, si vous allez devenir aveugle. Parce que le diabète est une maladie silencieuse. Et qu'en vieillissant, mes chers amis qui m'écoutez, s'il y a des personnes qui ont passé 50 ans ou 60 ans, on se diabétise tous en vieillissant. Et pour revenir au régime cétogène ou l'alimentation cétogène, le seul truc qui ne vieillit pas, c'est justement les corps cétoniques. Et il y a un truc qui est génial pour l'être humain, c'est que s'il n'a pas de glucose, eh ben il sait en fabriquer à partir d'autre chose, à partir des protéines. Et il y a toujours un tout petit peu de glucose dans votre alimentation, parce qu'on a des réserves, mais ces réserves ne sont pas suffisantes pour tenir plusieurs jours de jeûne. Et donc, ces corps cétoniques peuvent en priorité nourrir votre cerveau et après tout votre corps. Et ça, c'est génial, parce que les corps cétoniques, ils brûlent tout, et les corps cétoniques, ils vieillissent pas. À 100 ans, vous aurez la même activité des corps cétoniques. Ça, ne l'oubliez pas, c'est super important.
Ouais, c'est hyper intéressant. J'ai suivi un petit peu le même type d'exploration. Bon, évidemment plus concentré parce que je suis plus jeune que toi. J'ai une étape de ma vie où j'ai essayé d'être un peu plus végétarien, plus par conscience et pas pour remettre en question ma relation avec la viande. Et je me suis aperçu qu'en réalité, ça me convenait pas très bien, notamment parce que je digérais pas hyper bien de grandes quantités de légumineuses. Ensuite, je me suis mis à faire des sports de force et donc j'ai mangé beaucoup de protéines, beaucoup de glucides. Mais en fait, j'avais l'impression de passer c'est ma journée à être lourd en digestion, etc. Tu vois, même en termes d'énergie, c'était pas terrible. Après, j'ai testé le cétogène qui m'a énormément plu directement parce que énergie beaucoup plus stable tout au long de la journée, plus de fluctuations, plus d'hypo, d'hyperglycémie, aussi la sensation de mieux digérer, tu vois, d'être moins lourd parce que bah, en réalité, j'étais simplement déjà mathématiquement obligé d'en mettre moins dans mon estomac pour avoir la même quantité de calories. Et puis maintenant, là, je suis sur plutôt un régime low carb. Donc, je mange entre 10 et 30% quand même de glucides dans mon alimentation parce que je fais beaucoup de sport, parce que je m'aperçois que mes selles et ma digestion sont meilleures avec un peu de glucides quand même, parce qu'il y a aussi la capacité de la... je suis APOE3. APOE3. D'ailleurs, tu fais bien de me demander quelle APOE je suis, parce que tu l'as dit tout à l'heure avec en parlant des Inuits et puis... Et tout ça, et moi, c'est la raison pour laquelle je fais cette masterclass avec le docteur Mouton, c'est que je trouve que la génomique est vraiment une réponse magique, entre guillemets. Parce que jusqu'à maintenant, t'entends toujours les uns dire, ouais, le cétogène, c'est le meilleur régime du monde. Et puis t'as les autres qui disent, non, il faut être végétarien, c'est le meilleur régime du monde. Et puis aux États-Unis, là, t'as un nouveau courant qui dit, non, il faut être carnivore. En fait, tes plantes, elles essaient de nous tuer. Et au final, je pense que ils ont tous raison. Ils ont tous raison pour une certaine frange de la population qui répond bien à cet héritage génétique. Comme tu le montrais très bien avec les Inuits qui mangeaient pas de légumes et que du phoque, donc que du gras et de la viande, ça leur allait très bien parce qu'ils sont prédisposés à ça. Et de la même façon, les gens qui étaient plutôt dans le bassin africain, eh ben, ils ont plus de mal à digérer les graisses, les protéines et ils vont plutôt être sur un régime à tendance végétarienne avec peut-être plus de glucides. Même si je te rejoins sur le fait que les fruits ont une concentration en glucose, en fructose beaucoup, beaucoup plus importante que ceux de l'époque et que par conséquent, je pense qu'on mange tous trop de glucides, qu'on a tous trop de fluctuations de notre glycémie et je trouve que c'est intéressant de replacer ça comme espèce d'étalon roi. Tu parlais du diabète, je vois que même chez les sportifs, notamment des sportifs d'ultra-endurance qu'on voit faire des heures et des heures et des heures d'entraînement chaque semaine, il y a Tim Knox notamment qui en parle, qui est devenu diabétique et d'autres. Donc même le sport en réalité ne nous protège pas de ces maux qui correspondent à cette fameuse caramélisation du cerveau dont tu parlais, qui peut être mesurée par l'hémoglobine glycée notamment. Et donc pour moi aussi, ça a été un petit peu une révélation de comprendre. Et en plus, tu t'aperçois que quand tu as une tendance beaucoup plus importante à fonctionner, un métabolisme hybride, on va dire, qui est capable à la fois de fonctionner sur les glucides et sur les lipides, et ben tu as aussi un rapport à la faim qui est différent. Parce que tu as moins de fringales, tu es capable, je fais du jeûne intermittent, ça me pose aucun problème. Et là, je m'amuse une fois par semaine à faire un jeûne de 24 heures. Et en réalité, j'ai été surpris parce que c'est une nouvelle expérience que je fais. Et j'ai même pas eu de difficulté, tu vois. J'ai même pas eu, ça m'a même pas demandé de temps, d'adaptation. Ça n'a pas été difficile comme j'aurais pu m'y attendre. Simplement, mon corps, il a l'habitude, il a une hypolyse qui fonctionne bien. Il a l'habitude d'être capable de dégrader du gras et des lipides et de produire des corps cétoniques. C'est juste hyper agréable au quotidien de pas être dépendant de ton alimentation.
C'est ça. Et moi, j'en sais quelque chose puisque de l'âge de 15 ans presque à 30 ans, j'étais boulimique. D'accord? Donc là, parce que j'avais des gros problèmes psychoaffectifs, on va dire j'ai une psychogénéalogie, j'en parlerai dans un livre quand je serai vraiment vieille. Pour le moment, je me sens pas vieille du tout.
Bah, tu parais pas vieille non plus esthétiquement, je te rassure.
Bon, donc j'ai un passé assez composé, on va dire. Et donc j'ai fait des psychothérapies, des séminaires, des machins pour m'en sortir parce que je pense que j'aurais pu me suicider très rapidement. Et donc l'alimentation était un petit peu un refuge. Évidemment le sucré et toutes ces horreurs. Je buvais des litres de lait homogénéisé parce que je trouvais ça trop bon. Et après j'étais par terre tellement j'étais fatiguée quoi. Donc j'ai fait des jeûnes. Alors il y a qu'en jeûnant que j'étais bien et je me disais mais qu'est-ce que je vais remanger? Je savais pas tout ça. Donc j'ai appris petit à petit. Et donc tu as raison de dire que tout le monde ne peut pas être au cétogène strict parce que je trouve ça trop dur, mais c'est bien en transition de faire cette expérience. Et après, en fonction et de vos ApoE et de votre génome, parce que moi j'ai fait une étude de mon génome, tu vois, ouais. J'ai mis à côté les trucs parce que j'ai des polymorphismes par exemple où mon foie traite très mal les lipides, j'ai tendance à prendre du poids, j'élimine mal les toxiques, mes neurotransmetteurs ils marchent mal. Mon stress oxydatif est très important. J'ai aucune protection antioxydante. Putain, on m'a donné un génome. Wow. Donc, faut que je me débrouille avec ça. Et chacun est différent. Donc, le mieux, c'est d'être un peu flexitarien. Mais le sucre sous forme de sucre, moi, je le bannis complètement. Hein. Ça, non, il n'existe pas dans la nature. Si tu fais beaucoup de sport, tu peux très bien peut-être prendre un tout petit peu de miel, mais les trucs au quotidien, jamais, jamais. Et tu peux prendre bien sûr des amidons résistants avec des tubercules, des choses comme ça. Mais écoutez votre corps. Et ça, c'est la première leçon. Mais écouter son corps, ça veut pas dire j'écoute mes pulsions, tu vois. En ancienne boulimie, je peux t'en parler parce que les pulsions qu'au chocolat, elles sont très vastes. Les pulsions au sucré, vas-y, je te passe devant une boulangerie quand je sortais du lycée. La boulangère était très intelligente, elle balançait la bonne odeur magnifique des pains au chocolat qu'elle fabriquait, et tu ne pensais qu'à une chose, c'est d'aller acheter ce pain au chocolat qui sortait tout chaud et de le manger. Et bon, quand on est jeune, on est des chaudières, on brûle plus que quand on vieillit, mais ça m'a entraîné j'étais dépressive, une vraie dépressive, vraiment plus envie de rien, fatiguée. Ma mère buvait du café au lait, donc j'ai suivi, je prenais du café au lait et j'étais fatiguée après avec des idées noires. Donc, je disais, mais c'est quoi ça? Et je l'ai mis d'ailleurs dans mon introduction de paléobiotique, c'est que j'avais compris que l'alimentation était reliée à mon état psychique. Et aujourd'hui, maintenant, on parle de deuxième cerveau au niveau du microbiote. Je pense que ton auditoire comme le mien est suffisamment connecté pour maintenant faire le lien. Mais quand j'ai organisé mon premier congrès en 2010, j'avais invité un psychiatre, docteur Thierry Lebrun, qui est génial, qui est à Marseille. Et pour lui, l'alimentation était très importante. D'ailleurs, je recevais des gens à l'époque et il m'avait dit, Marion, écoute, moi, j'ai pas le temps de leur faire parler de régime, je te les envoie. Et donc, j'étais déjà au sans gluten, sans produits laitiers. Et il m'envoyait des schizophrènes, il m'envoyait des gens avec des maladies psychiatriques. Et j'arrivais à leur faire changer d'alimentation et ils allaient mieux. Et j'en ai même un qui m'avait dit, dès que je remange un bout de pain, j'ai le magnétophone qui repart en schizophrénie avec un bavardage intérieur qui me pousse à faire des choses très négatives. Donc, on comprend bien la relation entre alimentation et psyché. Donc, s'il y a des gens qui nous écoutent, qui sont fatigués et qui ont des dépressions ou qui sont qui ont pas le moral. Alors d'abord arrêtez d'écouter les nouvelles parce que franchement il y a que se flinguer. Mais organisez-vous un monde autour de vous et changez d'alimentation. Dans un premier temps, arrêtez le gluten et les produits laitiers de vache classiques parce que on comprend quand on va au cétogène. Moi je vais au cétogène sans lectine, qui est plus conseillé par le docteur Gundry, qui a écrit Le paradoxe des plantes. Et je dois dire que les lectines, c'est vraiment une cochonnerie pour les gens qui ont un intestin très fragile comme moi, parce que, petit détail, je suis née par césarienne, on n'a même pas demandé à ma mère son avis, on lui a dit « venez le vendredi » parce que ça emmerdait le gynéco de venir le week-end. Donc je suis née à 9h30 du matin, vendredi 17 février, pour ceux qui veulent faire de l'astrologie à Paris. Et on m'a bardé d'antibiotiques parce que j'étais enrhumée tout le temps, évidemment, puisque j'étais intolérante au lait de vache, mais ça je le savais pas. J'avais un microbiote débile puisque je suis née par césarienne et à l'époque on stérilisait tout, donc le microbiote était très compliqué au niveau commensal pour bien coloniser et avoir une bonne protection. Donc je suis arrivée avec plein de fragilités dans le monde, ce qui fait que je pense que c'était une obligation. Vous savez, on a tous un chemin de vie et à la fois les problèmes psycho-affectifs, ma mère s'est mariée un certain nombre de fois, 6 fois, pour rien dire. Donc aucune sécurité, tu vois, ça me reste en travers de la gorge. Aucune sécurité affective, déposée chez ma arrière-grand-mère dans un premier temps et chez ma grand-mère le week-end parce que ça l'emmerdait de nous garder. Et ma sœur et moi qui est arrivée en retour de couche 18 mois après, pareil césarienne. Donc bon, bref, pension, machin. Et tout ça, vous savez bien que tout est relié. On n'est pas un sac de viande avec une façon de fonctionner physiologique. Notre physiologie est également reliée à notre conscience, à d'où on vient, parce que on va. Là, je sors un peu peut-être de tes sentiers battus, mais pour moi, c'est tellement important. D'ailleurs, j'ai écrit un livre qui s'appelle Nutrition consciente, parce que j'ai mis plus de 5 ans à l'écrire, parce qu'à chaque fois, je découvrais d'autres choses. Mais nous sommes aussi des êtres de conscience, psycho-affectivement très perméables à l'environnement dans lequel on est, au choc émotionnel. D'ailleurs, un choc émotionnel, une grande peur. J'ai eu un accident de vélo là au mois de mai. Une grande peur vous entraîne une diarrhée, mais vous vous videz, quoi. Littéralement. Donc, on peut pas dire que une grosse émotion n'a pas d'impact. Ça, c'est tous les travaux du docteur Hammer. Tu dois le connaître, non?
Non, mais en tout cas, ce dont tu parles, oui, ça me parle bien. Ouais.
C'est trop important. Il est bien sûr poursuivi par les Mivilus et compagnie, les morts maintenant harcelés. Et il se trouve que le docteur Hammer était un médecin allemand. Et comme tout découvreur, ils sont peut-être trop intégristes, mais son travail est formidable. Et il avait un fils unique. Et ce fils unique, je sais plus, il avait une 20aine d'années ou 18 ans, je sais plus. Et il faisait une sieste dans son bateau. Il avait un bateau. Et lors d'un règlement de compte avec le roi Emmanuel II et des mafiosos, il y a eu des tirs de balles. Et une balle a percé la coque du bateau de Hammer et a tué son fils. Pas sur le coup, le fils a mis 3 semaines à mourir. Et le docteur Hammer a fait un cancer des testicules quelques semaines après. Cancer foudroyant. Et bon, il était médecin, il était intelligent, il était dans une grande ouverture d'esprit. Et il s'est dit, mais pourquoi je fais un cancer comme ça foudroyant? Et dans la salle d'attente où il y avait les femmes qui avaient le même cancer, qui était un cancer des ovaires, il les a interrogés sur ce qui s'était passé dans leur vie. Et tout avait eu un conflit de perte d'enfant, une grosse perte, parce que c'est le vécu ressenti qui est très important. Et il a exploré tout ça d'une façon très approfondie et il s'est aperçu qu'il y avait une symbolique à travers les organes. Donc, on ne fait pas un cancer du foie, du pancréas, de l'intestin, du sein par hasard. Le sein, selon qu'on est droitier ou gaucher, va être un conflit de nid, c'est-à-dire le votre mari est parti avec le secrétaire, ou il est mort, ou un de vos parents est mort et c'est un gros choc émotionnel, et vous le vivez comme un conflit relié au nid, etc., etc. Donc tout ça, il y a toute une étude là-dessus que j'ai très étudiée profondément, et quand je recevais des gens, de toute façon, je travaillais toujours sur les deux plans. L'alimentation et ce qu'on appelle un conflit psycho-émotionnel. Et vous verrez que dans les années qui suivent, qui viennent, on va tenir compte de ça. Mais il y a un tel obscurantisme en ce moment sur la médecine où on vous, allez, un symptôme, un médicament, en un quart d'heure, circuler, il n'y a rien à voir, 23 euros, parce qu'on n'a pas le temps de vous faire changer de mode de vie. Et il y a des gens comme nous qui travaillons là-dessus, qui écrivons là-dessus, qui vous permettons d'avoir une connaissance. On a Internet, même s'il y a beaucoup de gens qui sont blacklistés parce qu'on ne peut pas tout dire, il y a quand même des réseaux où on peut quand même pouvoir parler. Donc, documentez-vous parce que c'est vous ne pouvez pas soigner. D'ailleurs, je vais faire un live avec le docteur Laurent Schwartz, qui est cancérologue, le 16 novembre, je vous le dis, à 18h, sur ma chaîne YouTube, Marion Kaplan et Vitaliseur, en live, comme ça vous pourrez poser des questions, parce que toutes ces maladies sont multifactorielles. Et donc, le problème, c'est que la science veut tout randomiser. Allez, régime cétogène sur les cancéreux. Ben non, ça peut pas marcher, parce que si ton conflit, tu continues à être complètement fracassé parce que ton mari est parti ou que ta mère est morte et que tu étais complètement fusionnel avec elle ou ton père et que tu n'arrives pas à régler le conflit, tu régleras pas la maladie. Donc, il faut travailler toujours sur tous ces registres. Nous sommes des êtres de conscience. Je pense que même s'il y a une conscience émotionnelle des animaux, nous sommes les seuls à pouvoir changer de niveau de conscience parce que il y en a qui croient en Dieu, il y en a qui croient en énergie, la loi du secret, vous, au Ponopono, vous faites ce que vous voulez. Mais on est capable de changer de niveau de conscience et de s'adapter à un gros choc émotionnel. Je connais des femmes qui ont perdu leur enfant unique, c'est un drame absolu, mais qui ont réussi à connecter cet enfant sur d'autres plans. Il faut utiliser, comme dirait le Dalai Lama, qu'on croit à la réincarnation ou pas, ce qu'il faut, c'est prendre la croyance qui nous fait du bien, la croyance qui va nous apaiser, parce que le stress est le plus grand tueur du monde moderne. Et nous sommes dans un environnement hyper stressant, parce que avec toutes ces montées de guerre, avec les armes nucléaires qu'on a, on ne sait pas du tout s'il n'y en a pas un qui va péter un câble. Donc, on est quand même dans un stress environnemental où l'agriculture est pourrie, l'élevage est pourri. Heureusement, il y a quand même des petits agriculteurs qu'on arrive à retrouver sur Internet qui font de l'élevage à l'herbe. Bernard Gabory, par exemple, pour ses produits laitiers, moi, je les conseille à fond la caisse parce que c'est les seuls à l'herbage. Je suis allée visiter sa ferme. Ils travaillent en famille. Ils sont formidables. Et j'espère qu'on n'aura pas de rupture de stock parce qu'ils sont géniaux. En ce moment, j'arrive pas à trouver de beurre parce que c'est pas la saison. Mais quand j'en ai, j'en prends et je congèle. Il y a le bœuf d'herbe. J'ai trouvé une autre ferme, mais pour eux, c'est compliqué de livrer à distance. Vous pouvez trouver des élevages parce que il faut savoir que quand un poulet mange du maïs et du blé, qui sont bourrés de lectines, les lectines étant des antinutriments qui vont perturber votre flore intestinale, ça c'est pour faire court, eh bien, la chair du poulet sera bourrée d'oméga 6 et peut-être de lectines. Donc, essayez de trouver des poulets qui sont élevés dehors, qui vont manger de l'herbe, qui vont manger des asticots, qui vont manger plein de trucs. Donc, voilà, je reviens à l'alimentation parce que il y a les stress. Et les stress environnementaux acidifient notre corps. Nous sommes tous en acidose. C'est pour ça qu'il faut prendre des citrates. Moi, je prends tous les jours pour alcalaniser et pour arriver à équilibrer vos pH et ne pas vous déminéraliser, etc. Parce que l'alimentation ne suffit plus. Voilà.
Moi, je conseille souvent un site qui s'appelle pourdebon.com qui permet d'acheter en circuit court directement chez des producteurs, et donc notamment je trouve du bœuf élevé à l'herbe en plein air bio à des prix extrêmement compétitifs. Je suis à peu près à 20 euros le kilo, donc tu vois c'est hyper accessible, alors que c'est du bio élevé à l'herbe, etc. Et puis il y a aussi tout un tas d'abats que tu trouves moins en moins chez le boucher, du foie, de la langue, etc. Et d'ailleurs Tu vois, le foie, c'est peut-être un petit peu difficile, mais par exemple, la langue ou le cœur de bœuf, le cœur de bœuf cuisiné en bourguignon, on n'y voit que du feu. C'était pour la petite parenthèse sur le sujet. Tu as parlé de plein de choses, Marion, et tu avais peur de sortir un petit peu du cadre de ma ligne éditoriale. Détrompe-toi. Ces sujets liés à la conscience, etc., m'intéressent énormément. En réalité, c'est vrai que quand j'ai lancé Limitless, je cherchais à être une meilleure machine. Mais en adressant la base, c'est-à-dire mes besoins fondamentaux, en étant quelque part moins métaboliquement insultant, comme dirait mon ami Pierre Dufraisse, petit à petit, ça m'a permis de m'élever aussi d'une certaine façon et de changer ma vision du monde. Et donc, j'ai pu explorer, j'ai été sur des sujets plus liés à la conscience de plein de façons différentes. D'un côté, des états de conscience modifiés avec de l'ayahuasca, de la psilocybine, etc. De l'autre, des choses plus ésotérique entre guillemets, par exemple avec André Charbonnier, où on a discuté justement de ces blessures d'enfance et de la façon dont elles nous impactaient tout au long de notre vie. Tu parlais d'impact du stress. J'ai fait un podcast avec Éric Lacroix, qui est un ultra trailer assez connu, qui avait une super alimentation, un cœur de champion, et qui pourtant a fait un infarctus. Et notamment, il le relie directement au fait qu'il se mettait énormément de pression et qu'il était très stressé. J'ai fait récemment un épisode avec Pierre Etchart qui interroge l'homéorésie, notre relation avec l'environnement, la façon dont tu vois la science en réalité pour évoluer à avancer vers un réductionnisme de plus en plus grand, chacun étant hyper spécialisé et ne permettant plus d'avoir une vision holistique globale de l'organisme et de son interaction avec l'environnement. C'est-à-dire qu'on a sorti chaque partie de leur environnement et de ce côté contextuel. Donc voilà, donc tout ça pour dire que c'est des sujets qui m'intéressent grandement et je pense que c'est pas du tout ésotérique de dire que aujourd'hui, je pense que on a beaucoup parlé du microbiote qu'on appelle notre second cerveau parce que ça fait beau, etc. Il y a beaucoup de marketing derrière ça. Si on regarde l'embryologie d'ailleurs, on pourrait être surpris de s'apercevoir que qui précède le vrai cerveau d'une certaine façon, donc ça pourrait être le premier. Et donc on entend dire maintenant que c'est le siège de nos émotions, notamment par le fait que les populations bactériennes de levure, etc., qui vivent en symbiose avec nous, eh bien, arrive à influer nos envies de nourriture, notamment nos humeurs, etc. Et donc, il y a une relation directe et bilatérale entre notre alimentation, cette population et la diversité, ou en tout cas le type de famille qu'on abrite dans nos intestins et l'état d'épanouissement psychologique dans lequel on peut être. Donc je suis tout à fait en phase avec tout ce que tu partages, Marion. Je voulais te le dire. T'as pas mal insisté sur les lectines. Je pense que c'est quelque chose d'intéressant parce que tu vois, je pense que la base en nutrition, c'est de se dire, ok, je mange des produits bruts. C'est super de commencer par là. Je pense que c'est vraiment une bonne base. Mais pour autant, même en mangeant des produits bruts, tu peux avoir des soucis d'assimilation, des selles qui sont pas terribles, des ballonnements, des flatulences. C'est dur aujourd'hui, je trouve, de bien s'alimenter. Et même si tu t'alimentes bien et que t'as l'impression de tout bien faire d'un point de vue théorique, dans les faits, tu t'aperçois que c'est quand même pas terrible, comme si on n'était plus adapté à la nourriture qu'on mange, que nos muqueuses étaient plus capables d'assimiler correctement les nutriments qu'on leur apporte. Et donc là, on peut aussi avoir une forme d'explication génomique, puisque, par exemple, tu vois, dans mon cas, j'ai beau manger des noix du Brésil, je suis quand même carencé en sélénium parce que j'ai des difficultés d'absorption que je peux relier directement à certains polymorphismes. Mais revenons du coup au sujet des lectines, qui, à mon avis, sont omniprésentes dans nos alimentations et peuvent expliquer en partie ces désordres intestinaux. Comment est-ce que toi t'en as pris conscience et qu'est-ce que tu fais au quotidien pour gérer ça?
Alors, j'ai été une des premières, faut que tu le saches, en France, quand j'ai découvert ce livre qui venait de sortir, Le paradoxe des plantes du docteur Gundry, qui est un cardiologue, hein, et qui a essayé de comprendre pourquoi les gens pétaient les plombs sur le plan cardiovasculaire avec toutes les maladies reliées aux problèmes cardiovasculaires, athérome, AVC, etc., etc. Et c'est là où il s'est intéressé aux lectines qui sont finalement, si on résume la vie sur Terre, c'est manger ou être mangé, hein, en gros. Même nous, on se faisait bouffer par le lion, hein, et on n'avait pas de poils, il fallait qu'on prenne des peaux de bête, qu'on invente le feu pour mettre nos prédateurs à distance. Donc, c'est bon manger ou être mangé. Et que ce soit dans le règne animal ou végétal, eh bien, on connaît l'histoire de la gazelle, où beaucoup, je ne sais plus comment ils s'appellent, ces animaux d'Afrique, qui mangeaient de l'acacia. Et l'acacia lui-même, quand il y a un troupeau qui arrive pour bouffer leurs feuilles, et ben elle crée des antidotes, des poisons qui foutent la diarrhée aux gazelles. Donc, du coup, elles arrêtent de le manger et elles vont ailleurs. Parce que la plante aussi, elle doit survivre. Et par exemple, les fruits, ils ont un code couleur. Le code couleur vert, c'est de dire à l'animal, attention, il faut pas que tu me bouffes parce que il faut que mon noyau soit prêt pour que quand tu vas le manger, tu vas le manger et il va rester intact et tu vas déféquer un peu plus loin que l'arbre parce que l'arbre, il fait de l'ombre et mon bébé ne pourrait pas pousser parce que le truc de la planète, c'est de faire des enfants pour continuer à avoir des générations derrière, que ce soit des plantes ou des animaux. Donc, le code couleur rouge, par exemple, c'est un code couleur que, vas-y, tu peux me manger. L'animal, il va bouffer le truc, il va déféquer plus loin. Et plus loin, il y a un arbre qui va pousser quelques années après. Donc ça, c'est génial pour la plante. Mais il y a aussi les plantes nues. Donc le blé, les céréales. Et les plantes nues, elles n'ont pas de protection, au secours. Donc qu'est-ce qui se passe? Parce qu'elles peuvent tomber en dessous et elles vont faire des bébés. Mais il faut qu'elles se protègent des prédateurs. Donc leur enveloppe. Le fameux blé complet, le riz complet, qui est si préconisé par les végétariens, eh bien, contient énormément de lectines, ces antinutriments qui foutent le bazar dans votre intestin, parce que ça fout le feu à votre intestin, ça s'agglutine sur vos protéines, ça, surtout le blé, ça c'est le pire, il ouvre les parois avec la zonuline qui va laisser passer ces grosses molécules qui ne devraient jamais passer et qui vont aller dans le flux sanguin sur vos récepteurs opioïdes, donc vous êtes shooté quand vous avez mangé votre baguette de pain, vous êtes trop content, ça vous fait un shoot, mais je peux vous dire que ça vous dégrade. Et comme je l'ai dit au départ, en vieillissant, non seulement on se perméabilise, mais on se diabétise. Donc toute personne, et ça c'est les travaux d'Alessio Fasano, qui a bien démontré que le gluten, bien sûr, était toxique pour les malades cœliaques ou ceux qui ont un polymorphisme DQ2, DQ8, que toute personne, même pas génétiquement programmée, de toute façon, va se perméabiliser à cause de ce putain de gluten. Vous voyez? Donc, je vous conseille vraiment, surtout qu'il y a un truc sur Arte qui est sorti sur le gluten. Bon, tout n'est pas allé jusqu'au fond comme moi j'ai pu le faire, mais ils mettent en garde quand même, ils ont interrogé les bonnes personnes, et eux, ils attaquent le glyphosate, et apparemment pour eux, les OGM, ils s'en foutent un peu, le rétrocroisement avec les chromosomes, ils s'en foutent un peu, mais je peux vous dire qu'en tout cas, on a créé des blés qui sont des Frankenstein blés, comme dirait Vénesson, qui ont des molécules tellement riches en lectines, que là, ça attaquera chez tout le monde. Hein. Donc, si vous avez un gamin TDAH, vous savez, qui a du mal à se concentrer, ce que je suis, hein. Moi, j'étais vraiment TDAH, aucune mémoire pour je relise tout début, très très dissipé. C'est pour ça que je préfère les interviews, parce que tu me laisses dans le rang, parce que sinon, je pars tout azimut. Et ça, je vais mieux, mais c'était terrible, quoi. Donc, si vous avez des enfants qui font des infections à répétition, etc., regardez, arrêtez-leur le gluten et les produits laitiers de vache, sauf ceux de Bernard Gabory ou en tout cas de ferme à l'élevage, et regardez leur taux de fer. C'est souvent des gamins qui ont plein de carences, et faites-leur faire un bilan. Je suis désolée, c'est pas très compliqué de faire un petit bilan et de compenser leur carence, parce qu'une carence peut vous tuer. Vous savez bien qu'une carence en vitamine C, c'est le scorbut, c'est la mort. Donc, vitamine B1, beriberi, et c'est la mort. Donc, comme on peut être très, très facilement carencé du fait des modes de cuisson, des modes d'agriculture, des modes d'élevage, et en plus des problèmes d'absorption dus à un microbiote en dysbiose, c'est-à-dire un microbiote qui a trop de bactéries pathogènes, à la fois sur le plan de votre naissance, mais en plus, les microbiotes sont appauvris parce qu'on mange toujours la même chose. Donc, je sais, je dis beaucoup de choses, mais j'essaie toujours de vous faire les liens pour vous aider à rentrer dans le rang. Au début, d'arrêter tous les sucres, tous. J'ai évidemment aucun soda sucré, mais aucun. Vous voulez un petit sirop de grenadine? Non. Mon enfant, il va boire de l'eau, des tisanes si vous voulez, le café selon vos polymorphismes et votre capacité de détoxifier de votre foie. Et moi, je prends un café le matin, point bas, mais je prends un café grave avec du MCT. c'est-à-dire des acides gras à chaîne moyenne qu'on trouve sur Internet, hein, on ne va pas s'embêter, parce qu'il est très riche en acides caprylique. J'écoute ma faim. Si j'ai pas faim, je mange pas. Moi, je fais pas un jeûne intermittent tout le temps. Donc là, je suis en jeûne intermittent parce que j'avais pas faim ce matin. Bon, voilà. Je vais pas mourir, j'ai pas faim. J'aurai faim peut-être tout à l'heure, c'est pas grave. Moi, j'écoute mon corps. Donc, je suis pas dans « Allez, jeûne intermittent pour tout le monde ». Non, écoutez votre corps. Et le problème, c'est que les gens, ils mangent sans faim. Et ils mangent 3 fois par jour. Alors que, si tu n'as pas faim, tu manges pas. Tu vas pas en mourir, tu bois de l'eau. Et puis, tu attends le repas suivant. Et ça, c'est une bonne règle. L'écoute du corps, mais attention au psycho-émotionnel qui va vous faire aller vers les choses sucrées en général. Voilà. Je suis reparti dans mon...
Il y a plusieurs choses sur lesquelles je vais rebondir. Je vais juste d'abord clôturer le sujet des lectines, donc pour avoir une espèce de takeaway sur le sujet. Le gluten et donc le blé, on évite, sauf si peut-être c'est du blé ancien et que c'est du pain au levain, etc. Tu me diras ton avis là-dessus. Le riz, le millet, etc. Potentiellement ok, mais blanc, pas complet, et puis on laisse tremper.
Mais blanc, la glycémie qui va s'élever, c'est toute la problématique. Ouais. Après, il y a la glycémie, la glycation. C'est pour ça qu'il faut faire super attention. Parce que quand on dit vous pouvez manger du riz blanc, toi, tu fais du sport. Mais les gens, en général, ils se lèvent, ils vont au bureau en bagnole. Après, ils vont faire 25 pas et puis ils vont se retrouver à leur bureau. Et le soir, rebelote. Ceux qui veulent, ils vont faire leurs 10 000 pas, mais 10 000 pas, pas du tout en rapide, en oxygénation. Donc,
moi, j'ai une règle qui est simple, c'est de dire que les glucides, on les mérite. Donc, moi, le midi, j'en mange pas. Donc, je fais souvent, justement, je mange plutôt cru, des grosses salades de légumes avec pas mal d'oléagineux, des œufs, peut-être des sardines, etc., des avocats. Mais il n'y a aucune source de céréales ou de glucides. Et puis, je fais mon sport vers 17h. Et donc, du coup, sur mon repas du soir, là, je vais avoir peut-être 2-3 cuillères à soupe de sarrasin, de millet, pour refaire un peu mes stocks de glycogène. Mais parce que j'ai fait 1 ou 2 heures de sport avant. Et donc, entre guillemets, je considère que ils sont mérités et justifiés dans ton texte. Tu parlais des vitamines et des carences. Je trouve que c'est un sujet hyper intéressant. Tu vois, je lisais une étude là il y a pas longtemps dans l'Obs qui montrait que les pommes modernes avaient 100 fois moins de vitamine C qu'en 1950. Le brocoli 4 fois moins de calcium, les oranges 20 fois moins de vitamine D, la viande 2 fois moins de fer. Enfin, tu vois qu'il y a un appauvrissement en micronutriments dramatique des aliments qu'on consomme, que ce soit du règne animal ou végétal. Hein. Les deux sont concernés. Donc ça, c'est un premier point. Le second, c'est que, comme tu l'as dit, la capacité du microbiote, la capacité d'absorption, etc., peut être parasitée, peut être abîmée. Et en plus, il y a une forme de cercle vicieux qui se crée dans la mesure où, pour absorber correctement, on a besoin de cofacteurs. Donc ces cofacteurs, c'est quoi ? C'est des micronutriments. Donc si on est carencé, quelque part on a moins de cofacteurs, donc on a encore plus de mal à assimiler les trucs qu'on mange. Et c'est comme ça que tu te retrouves potentiellement à tout bien faire et pour autant être carencé en plein truc. Et là tu fais des analyses. Donc c'est vrai qu'en France on n'a pas trop cette approche là, mais des gens comme le docteur Mouton et d'autres qui sont des que ce soit du côté de la naturopathie fonctionnelle ou de la médecine fonctionnelle ou même du côté du suivi des sportifs où ça se fait beaucoup plus, on a des analyses sanguines qui sont quand même beaucoup beaucoup plus poussées. Et là t'as l'impression d'avoir une diète super super équilibrée et puis tu te rends compte que tu es carencé en plein de trucs et tu te dis, mais c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Ça. Alors, du coup, qu'est-ce que tu fais ?
Quand j'ai fait mes premières analyses avant de faire de la micronutrition, moi j'étais comme tout le monde. Bon, non, je vais pas prendre des compléments alimentaires. Alors que dans mon polymorphie, je suis magnésium dépendant. Tu m'étonnes que j'étais énervée et fatiguée et que je dormais mal. Mais bon, donc j'ai fait des analyses. Pourtant, je mangeais du poisson, des légumes. Là. J'étais carencée en zinc, en vitamine D, en oméga 3. En vitamine A, mais un truc de dingue, quoi. Et donc, forcément, bien sûr, je me suis supplémentée. Là, justement, j'ai fait toutes des analyses. J'attends les résultats d'ici 3 semaines parce que c'est un peu long, parce que j'aime bien faire des check-up pour voir, puisque je suis au cétogène, je veux voir un petit peu ce qui va bouger. On est obligé de se supplémenter. Donc après, il faut trouver les bons labos en fonction. Moi, la vitamine D, j'estime que 90% voire 100% des gens sont carencés, même s'ils vont au soleil. Donc D3K2, c'est très important et jusqu'à 10 000 unités en fonction de vos carences. Moi, ça y est, j'ai résolu ma carence. suite à des analyses il y a quelques mois. Donc, je suis très contente, mais j'ai mis du temps à combler ma carence. Il faut comprendre que la médecine micronutritionnelle, c'est une médecine lente. Et il faut comprendre pourquoi ce qu'on mange, parce qu'on pourrait être un poireau, juste un peu de soleil et un peu d'eau, et voilà, on n'est pas des poireaux, et on est des êtres humains qui avons des centrales énergétiques, nos fameuses mitochondries, qui sont dans votre cerveau, qui sont dans votre cœur, qui sont dans vos muscles, qui sont partout, et ces mitos, c'est votre moteur. Et il se trouve que ce moteur, il marche mieux quand on est en corps cétonique, puisqu'il est, au lieu d'être multiplié par 36, il est multiplié par 100. Donc, j'appuie sur la pédale d'accélération. La mitochondrie au glucose, elle est hop, par 36 et avec les corps cétoniques, par 100. Donc, vous avez plus, la vitalité est décuplée parce que le glucose est un carburant sale. Il faut comprendre ça. C'est pour ça que j'amène plutôt à être flexitarien comme tu es, low carb. Mais attention, c'est bien que tu fasses du cétogène ou un petit jeûne de temps en temps, ça te met en autophagie et ça te permet peut-être d'être sur tes corps cétoniques. Mais j'ai encore dérivé. J'étais où?
Non, vas-y, tu peux terminer hein, sur la partie cétogène, hein, c'est hyper intéressant. Mais je te parlais des statuts en micronutriments et des carences. Et donc, moi, comme toi, tu vois, j'ai été très, très surpris quand j'ai reçu mes analyses de m'apercevoir que, comme toi, tu vois, j'étais carencé en plein de trucs, en magnésium, alors que je me supplémentais déjà, en vitamine D, alors que je me supplémentais déjà. Après, il faut dire que j'ai aussi une grosse activité physique qui augmente évidemment la déplétion
Attention, David, la grosse activité physique est néfaste pour la santé. Le sport intensif, je suis contre, et Mouton est contre aussi, parce que tu perfuses ton intestin, tu perméabilises ton intestin, tu fragilises ta muqueuse. Et d'ailleurs, quand tu vois tous les sportifs de haut niveau, quand ils arrêtent, soit ils deviennent trop gros parce qu'ils sont insulino-résistants, parce qu'avoir bouffé tout leur sucre et leurs céréales, parce que c'est ce qu'on leur disait de manger, et ben tous les boxeurs, les machins qui ont arrêté, ils sont tous gros, hein.
Je suis quand même pas à 25 heures par semaine comme un athlète olympique, mais disons que je suis peut-être entre 7 et 10 heures par semaine.
C'est pas ça, c'est l'intensif, il faut un peu être en cardio, c'est très important, mais je te le dis comme ça, hein. Voilà. T'en fais ce que tu veux, mais ça aura tendance à fragiliser ta muqueuse intestinale, à consommer beaucoup plus de matières minérales, vitaminiques, etc. pour tes mitochondries, hein. Et donc, la compensation, elle doit être énorme, quoi.
Après, donc, c'est aussi un plaisir, une passion. Ça me permet de poursuivre des objectifs ou des rêves qui m'animent. Tu vois, je me considère comme un explorateur du potentiel humain. J'adore explorer mes limites physiques, mais aussi mes limites mentales. Et donc, j'aime bien partir en montagne, faire de l'alpinisme. Là, je prépare des espèces d'ultra trail en autonomie. Je sais pas si on peut vraiment parler d'ultra trail dans le sens où il n'y a pas vraiment d'objectif de temps, mais par contre sur 5 jours tu marches, cours toute la journée dans des environnements extrêmes. Donc je vais le faire dans la jungle, le cercle polaire arctique, le désert
et pas tout le monde a fait ce que tu fais.
Quoi? Non, mais bien sûr, mais tu vois, c'est des trucs qui m'animent. Moi j'adore cette découverte, tu vois, comme je te disais que j'avais exploré aussi les états modifiés de conscience, etc. Enfin, tout ça, toute cette exploration du vivant et de la façon dont on fonctionne me passionne. Et donc voilà. Donc après, il faut aussi vivre. Tu vois, c'est important, je pense, de trouver un juste équilibre entre l'intensité qu'on a envie de mettre dans nos journées et puis cette concordance avec la santé. Mais pour autant, en parallèle, tu vois, j'ai tendance à dire que le type de vie que je mène, de par cette activité physique, mais aussi mon métier d'entrepreneur, etc., qui est déjà assez demanding en termes de stress, j'ai la sensation de marcher toujours sur des lignes de crête. Et donc, j'ai conscience d'être sur des lignes de crête où je peux facilement tomber dans le ravin et je dois maintenir l'équilibre. Et donc, je choisis de façon très très consciencieuse mes sources de stress. Donc, j'essaie de diminuer toutes celles qui me semblent sous mon contrôle pour me permettre, entre guillemets, ces autres sources que j'ai choisies. Et donc, par exemple, tu vois, je filtre l'air chez moi, je fais vachement attention à ma nutrition, j'ai peu d'écart, je fais des moments de respiration, etc., pour avoir pour activer le système parasympathique. Enfin, je me suis acheté un sauna, j'ai un sauna là derrière moi, à la place de ma télé. Tu parlais tout à l'heure d'ailleurs de l'information. J'ai une diète d'information, donc je ne lis ni ne regarde jamais les infos. Donc, je suis pas au courant de ce qui se passe dans le monde et je m'en porte.
Je regarde quand même pour savoir quel prisme ils mettent dans la tranche des gens, mais je suis pas du tout affectée parce qu'on nous manipule. Voilà.
Moi, tu vois, j'ai supprimé tout ça et je ne m'en retrouve que mieux. Donc voilà. Donc, tout est toujours une question de toute façon d'équilibre et puis aussi une forme d'homéostasie, tu vois, avec des moments où tu vas aller sur des crêtes un peu plus intenses, puis d'autres moments qui vont être plus sur la récupération. Je suis encore jeune aussi. Peut-être qu'à un moment, j'aurais envie d'explorer des choses qui sont moins dans la physicalité. Quoi qu'il en soit, je reviens sur ce que tu disais sur le cétogène, parce que c'est intéressant, tu vois, cette perfusion de la mitochondrie qui fonctionne mieux, etc. Ça fait un mois et demi donc que tu es sur cette alimentation-là. J'imagine quand même que tu étais déjà sur une forme de low carb, ne serait-ce que parce que tu avais supprimé tout ce qui était céréales, etc. Tu étais déjà avec une logique assez paléo. Donc d'ailleurs, tu pourrais me dire ce que tu as supprimé en plus, peut-être probablement des fruits un peu sucrés que tu mangeais auparavant.
Alors, j'étais low carb et j'ai écouté ma révolution glucose de Jessine Chauspé, tu vois.
Ouais, je connais.
Et donc j'ai remis le glucomètre là, tu sais, le capteur de glucose.
Oui.
Là, je suis à 103.
T'en as un sur le bras là,
J'en ai. Moi, je le mets en permanence.
C'est donc, lequel que tu as?
J'ai le Freestyle Libre.
Ok.
Freestyle Libre 2, je le colle, clac, et t'as l'application là qui s'appelle LibreLink, c'est la jaune là.
Ok.
La jaune.
Et comme ça, tu suis.
Ok. Je suis en permanence quand j'ai un stress, quand je fais du sport, le glucose il monte, tu vois. Il monte. Je suis toujours dans la couverte. Verte.
Parce que le cortisol est hyperglycémiant.
C'est fou quoi. Et comme moi j'ai un polymorphisme de diabétique, avant de me lever. Parce que j'allume mon téléphone, parce que je le coupe la nuit, bien évidemment. Je l'allume, je suis en dessous de 100, je suis à 90. Parce que tu sais, on se diabétise en vieillissant. Et dès que je me lève, paf, je passe à 102. C'est-à-dire que tout de suite, mon cortisol, paf, il te fait monter le glucose. Mais 102, ça va quand tu te lèves. Alors que mon compagnon, lui, il a 80, des fois il descend à 70, tu vois, on n'a pas les mêmes polymorphismes. C'est pour ça que on est tous différents. Moi, j'aurais pu être diabétique, hein, ça c'est clair. Et donc, je l'ai déjà dit dans un de mes lives, mais je te le redis, j'étais à Nantes, justement, à l'aéroport de Nantes, parce que je venais de visiter la ferme de Gabory qui est à Cholet, et l'avion a eu 2 heures de retard. Et j'avais pas pris mes petites noix, j'avais rien. Et dans un aéroport, t'as que des viennoiseries, t'as que de la merde. Oh, j'ai dit, merde, qu'est-ce que je vais manger, machin. Et je vois des chips de sarrasin. Ah, il y avait marqué sarrasin au sel. J'ai dit, bon, je vais prendre ça. Hein. Et je mange un peu plus de la moitié du paquet, ça devait faire 30 grammes. Et une demi-heure après, ou une heure, je ne sais plus combien de temps après, j'ai regardé ma glycémie. Putain, j'ai fait un pic à 210. 210. Waouh. Et pareil, j'ai une copine qui est très branchée là-dessus, qui fait de la micronutrition, qui, elle, est en low carb, presque cétogène, mais low carb. Et on déjeune ensemble et elle prend une demi-tranche de pain de sarrasin. Et pareil, on voit sa glycémie monter. Donc, du coup, j'ai arrêté le sarrasin. Moi qui croyais que c'était une pseudo-céréale, glycémie moyenne, on s'arrange comme on peut, hein. Eh ben, je l'ai supprimé. Toutes les céréales, mais aussi les pseudo-céréales, les pommes de terre. Je mange des carottes crues, mais pas cuites. Je mange des radis, enfin tous les légumes, les radis, tout ça, oui. Mais je ne mange plus de les fruits. Je mange des fraises de temps en temps quand j'ai envie, fraises, framboises, cassis. Comme on n'en trouve pas en ce moment, je les prends congelées parce qu'on fait ce qu'on peut. Hein. Je suis désolée aujourd'hui, il faut s'adapter à notre monde. Et donc, quand j'ai une grosse envie de fraises ou de framboises, je ne me prive pas et elles font pas monter ma glycémie. Je la prends avec la bonne crème de brebis Gabory. Miam, 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 c'est trop bon. Je laisse un peu macérer dedans, ben, je te jure, c'est super bon, quoi. Et cette crème Gabory, moi qui étais intolérante aux produits laitiers, ces produits laitiers-là, je les supporte très bien en termes gras. Hein. Je prends pas du tout autre chose que la crème et les yaourts on va dire des yaourts grecs, mais pas tous les jours. Même si je suis E3, j'en prends pas tous les jours. Voilà. Et en revanche, je prends le beurre gamoré tout le temps.
Tu relis ça au fait que leurs animaux sont élevés en plein air, mangent l'herbe, etc. Et donc, ils ont un profil d'acide gras qui est différent.
Ils ont leur propre pâturage de foin, ils font leur propre récolte de foin, et ils ont un système de déshydratation pour pas qu'il y ait de mycotoxines, etc. Ils sont allés très très loin. Ils sont géniaux. Hein. Et le beurre est baratté, il n'est pas pasteurisé. Tu peux y aller les yeux fermés. Hein. Moi, je les trouve formidables. C'est une bonne famille de paysans. Ils travaillent en famille. Ils sont 4 enfants. Je les trouve formidables, quoi. C'est la chaîne. Et toute la chaîne alimentaire est maîtrisée de A à Z.
Ouais, c'est génial. Ça s'entend d'ailleurs. On a parlé hein, plusieurs fois pendant cet épisode. Et donc, ça fait un mois et demi que tu es passé.
Je le dis quand même. Aucun conflit d'intérêt.
Ok. J'en doute pas. Et donc, ça fait un mois et demi que tu es passé du low carb au full cétogène. Et qu'est-ce que tu as pu constater sur ton énergie, sur ta digestion, sur la qualité de tes selles? Qu'est-ce que tu as pu observer?
Alors, comme je suis polymorphiste de diabétique, hein, donc c'est-à-dire que vraiment j'ai tous les marqueurs rouges par rapport à la métabolisation et du sucre et des graisses. Hein. Donc je prends quand même des enzymes dans les repas gras. D'accord?
Ok, tu prends des enzymes, tu prends quoi comme enzymes?
Alors, je vais leur faire de la pub, mais tant pis, pour moi c'est les meilleures, c'est celles de chez Energetica Natura.
Ok.
Pourquoi? Parce qu'il y a de l'organo dedans. Elles sont géniales. J'ai tout essayé.
Et donc, tu assimiles mieux parce que tu trouvais que tu avais du mal à assimiler les graisses, les repas trop gras. Et donc, depuis que tu prends les enzymes, tu as remarqué une meilleure qualité des selles?
Oui, parce que moi, il faut savoir que j'étais une constipée, mais je pouvais aller 10 jours sans aller à la selle. C'était une horreur. Ah oui, moi, j'étais presque fécalome. Donc, j'ai réglé cette constipation déjà il y a bien longtemps, en rétablissant mon microbiote, mais il y a des aliments que je pouvais pas manger, je comprenais pas pourquoi je ballonnais encore, j'arrivais pas à perdre mes petites poignées au niveau des hanches, je sais pas, je vais pas me mettre debout, mais tu vois, hein, je suis bien, quoi.
Ouais, t'es nickel.
et donc, je me pèse pas, hein, parce que c'était, pour moi, la balance est un stress, mais tu vois que tu perds un petit peu, ça c'est génial. Alors, la difficulté pour moi, j'ai eu vraiment des céphalées. Je suis une ancienne migraineuse, hein. Donc je sais faire la distinction entre céphalées et migraines. Et j'ai eu beaucoup de mal à descendre en dessous de 100, même au lever. D'accord? J'étais dans la zone verte et très vite jaune. Alors, un carré de chocolat tout seul, à 85%, je fais un pic de glycémie, hein. Un carré.
Ah ouais? À 85% pourtant?
Un carré. J'étais en formation chez Castronovo il n'y a pas très longtemps, en septembre. Et tu sais, tu as des pauses. Et l'après-midi, tout le monde se jette sur des pauses. Et je me suis dit, bah, tiens, je vais faire un essai puisque j'avais mon capteur de glucose. J'ai pris un petit bout d'ananas, mais ça, hein, et un petit bout d'orange. Donc, c'est vraiment pas beaucoup, hein, mais à jeun. Plus de 200, quoi. Et c'est là où je rejoins le docteur Georges Mouton. Ne mangez pas les fruits tout seul. Ne mangez pas les fruits à 5 heures parce que la chronobiologie complètement débile vous dit de manger les fruits à 5 heures et le truc sucré à 5 heures. Acheter un capteur de glucose, ça coûte 40 balles pour 14 jours. Je trouve que ça fait pas cher pour 40 jours de compréhension de votre métabolisme. Comme ça, vous verrez si vous faites ou non des pics. Faites du GSI une chose P, c'est-à-dire mangez les légumes, votre salade au début du repas, ensuite votre protéine en ne dépensant pas trop de protéines en fonction de votre poids de taille. Ensuite, les farineux, si vous y avez droit, mais mangez-le si vous pouvez. Et puis, vous regardez comment vous réagissez avec votre capteur de glucose. Parce que on n'avait pas de boussole. Aujourd'hui, on a des boussoles. Notre génome et les capteurs. Et bientôt, il y a aussi des capteurs de cétose, mais je l'ai pas encore essayé ça. Bref, je reviens dans les rangs. Donc, j'ai eu mal à la tête. J'ai eu très mal à la tête. Il fallait que je mette du camphre sur mes tempes. Mais j'ai dit, faut que je tienne, faut que j'y arrive. Et maintenant, ça y est. Mais j'ai mis plus d'un mois. J'ai mis plus d'un mois à avoir ces céphalées. Et alors, en plus, quand je faisais du sport, j'avais encore plus mal à la tête. tu vois, parce que je fais du vélo moi le matin. Et en revenant, putain, j'avais mal à la tête. Mais je me disais, allez, tant pis, je tiens. Faut tenir, quoi. Et je vous dis, ça dépend des gens. Et je vous conseille de rentrer doucement dans le cétogène, d'y aller à petits pas de bébé, de peut-être commencer par ma révolution glucose. Et j'ai fait un live là-dessus sur notre chaîne. Peut-être que tu pourras le mettre en lien en dessous. Moi, dans mes lives, je vous explique un peu le bouquin, mais après, à vous d'acheter le bouquin. J'ai pas de conflit d'intérêt, il ne me donne rien du tout. Mais je trouve que c'est des livres vachement intéressants à avoir et à comprendre. Ensuite, quand on veut aller plus loin, il y a le livre de Gary Taubes qui est vraiment très très mal. Je trouve que la typographie, il s'écrit petit, c'est pas aéré. T'as pas envie de le lire, mais quand tu le lis, c'est vachement bien fait. Donc Gary Taubes, c'est un journaliste américain mondialement reconnu, qui a toutes les colonnes dans le New York Times, qui a eu lui-même des problèmes et qui les a réglés et qui a expliqué les bonnes études et les fake études. Pour ça, pour moi, pour vous, les meilleures études, c'est l'étude de votre corps, comment vous réagissez. Donc je te le dis, moi j'ai eu des difficultés au départ et maintenant ça va. Et comme j'adore le beurre, là, je commence à inventer des recettes, bien sûr à la vapeur, hein, parce que je veux pas de glycation. Hein, donc, là, par exemple, j'ai fait un chou-fleur que j'ai réduit, tu sais, avec mon petit robot comme du riz de chou-fleur. Mmh. Je le cuis à la vapeur, je le cuis un peu plus, donc 10 petites minutes. Ensuite, je les mets dans ma petite soupière en céramique. Je les mets avec beurre gabori, un peu de beurre persillé. Si on veut un petit peu de fond de viande, si vous en avez. Vous le mettez dans la soupière, les goûts se mélangent et comme ça on peut manger du beurre. Parce que manger 200 grammes de gras par jour, c'est pas évident, hein. Et ben comme ça, c'est vachement bon.
Ouais, j'imagine. Bah, c'est aussi une de tes caractéristiques parce que tu sais parfois j'ai déjà eu des remarques sur ma façon de m'alimenter en me disant ça a pas l'air fun, etc. De faire tout le temps attention et tout. Et en réalité, moi je dis mais je fais pas attention. En fait, c'est juste que je mange des produits bruts, naturels, etc. Et j'adore ça. Je les trouve super bons et je me régale. En fait, c'est une vraie réjouissance pour mes papilles, quoi. J'ai pas du tout l'impression de me priver. Au contraire. Et à l'inverse, manger un truc industriel, etc. Bah j'ai pas vraiment de plaisir en fait à le manger parce que les papilles se rééduquent aussi, tu vois, quand t'as pas l'habitude de manger hyper transformé, hyper sucré, hyper salé, et ben très rapidement tu vas trouver ces trucs là trop salés, trop sucrés et en réalité pas très bons, quoi. Et c'est vrai que dans ton approche, les plats, notamment avec ton magazine là, 95 degrés, c'est magnifique. T'as eu plein de collaborations avec des chefs, etc. Ça donne envie, quoi. C'est beau. Je vais finir sur cette question du cétogène. T'as cité deux trois autres trucs que tu faisais. J'ai noté donc l'huile de MCT dans ton café le matin, le fait d'alcaliniser au maximum le corps et ouais, vas-y.
Tu prends un petit mixeur, tu fais couler ton café dans le bol de ton mixeur. Clac, tu le mixes parce que ça va très très bien amalgamer la graisse et je te jure, on dirait du café au lait. Et t'as pas besoin de le sucrer.
Pourquoi est-ce que tu rajoutes ça sinon t'as l'impression que tu manques d'énergie?
Non, parce que c'est le goût de prendre un café, tu vois. Et je peux très bien m'en passer. Je suis pas du tout addict au café, alors pas du tout.
Non, je parlais du MCT.
MCT, ça te permet d'avoir l'acide caprylique. Ils ont pris la graisse de coco, mais ils ont concentré cet acide caprylique qui te permet de fabriquer des acides gras chaîne moyenne et qui aide au niveau du cerveau, qui t'aide. Et en plus, ça donne un apport de gras. Donc, plutôt que la graisse de coco classique, qui est quand même très riche en acides gras saturés, et si tu es à peau 4, tu peux très mal les supporter, tu vois. Moi, comme j'ai un foie de merde, je suis désolée de le dire, je suis obligée de prendre des trucs pour aider mon foie avec du desmodium, avec des plantes pour le foie, tu vois, je l'aide. Et j'avais un foie gras, hein, il y a quelques années. Je commençais un syndrome Nash, hein, alors que je mangeais peu sucré, hein. Donc c'est te dire que les polymorphismes vont être très très importants. Alors que j'ai toujours été sportive. Et bon, je faisais de l'équitation avant que la jument me tombe dessus en 2008. Ensuite, je me suis mise au wake. Ensuite, je me suis mise au vélo. Parce que j'habite au bord de la mer. Donc, et le wake, c'est physique. Ça, j'avais des bras, dis donc.
Et pour aider ton foie, j'avais vu que tu avais fait un partenariat avec, enfin, je sais pas si c'était vraiment un partenariat, mais dans une de tes newsletters, tu avais parlé du vinaigre de cidre et j'ai reçu justement Marina Lemaire d'Archi.
Il m'a jamais offert une bouteille de vinaigre. J'ai pas de partenariat. Je parle de trucs auxquels je crois. Okay. Et ce vinaigre étant non pasteurisé, d'ailleurs, il est venu me voir, j'étais à Artemisia, c'est le seul salon qu'on fait, on fait pas de salon. Hein. Et un mec vient me voir avec une bouteille d'un demi-litre. Alors, je lui en ai fait vendre des milliers de bouteilles. En me disant, je voulais vous remercier parce que vous avez parlé de mon vinaigre et tout. Alors, donc voilà, j'ai vraiment pas de conflit d'intérêt parce que je préfère un vinaigre de cidre non pasteurisé, non clarifié, etc. Voilà. Donc, il y a encore un peu de mer dedans. Et je conseille ce produit qui est un très bon produit, le Mado 100. Je fais encore une pub pour lui et on le trouve dans pas mal de magasins diététiques maintenant.
Alors moi c'était Marina Lemaire d'Archi, mais tu avais cité les deux dans ton article. Et tu le prends à quel moment? Le soir pour détoxifier le foie, c'est ça? Avant de te coucher?
Règle. J'en ai pris quand je faisais une chose P, maintenant j'en ai plus besoin. Mais voilà, parce que en cétogène, j'en ai plus besoin. Okay. J'en mets dans parfois je fais des vinaigres au citron, parfois je fais des salades au citron ou des salades au vinaigre, ça dépend des jours, ça dépend. Vous savez, les salades, par exemple la roquette, je mets très très peu de vinaigre. En revanche, l'endive, je préfère une vinaigrette au citron. La laitue aussi. Le cresson, je préférerais le vinaigre. Bien sûr, pas de balsamique parce que c'est sucré. Voyez, donc chaque vinaigre va avoir une compatibilité avec l'origine de ta salade, tu vois. Donc, ça, c'est des goûts, c'est des alchimies, c'est la cuisine, quoi.
Et tu disais aussi que tu portais une attention particulière au fait d'alcaniser. Tu trouves qu'on a une alimentation qui est trop acidifiante et donc, tu peux détailler un petit peu ça?
Alors, de toute façon, notre mode de vie est acidifiant. Le stress est acidifiant et on sait bien que l'acidification du terrain, même si le pH sanguin est toujours le même, votre corps va vouloir tamponner ce trop d'acide ou d'origine alimentaire ou d'orne endogène de stress. Et qu'est-ce qui va se passer? Ben, il va prendre votre calcium, il va prendre plein d'autres minéraux pour tamponner ces acides. Donc, autant lui donner sous forme de citrate plutôt qu'il aille les chercher dans vos tissus. Et moi, je prends la formule de chez Natura Medicatrix, qui s'appelle la formule alcaline. Docteur Jacob, je la trouve géniale. J'en ai essayé d'autres. Pour moi, c'est celle-là qui est le mieux. J'ai un très bon transit avec ça. J'ai pas de crampes, je suis pas énervée. J'ai jamais été une grande dormeuse, mais j'arrive à dormir 4 heures de suite, ce qui pour moi est quelque chose d'extraordinaire. Parce qu'avant, je me réveillais toutes les 2 heures.
c'est pas beaucoup quand même. Écoute, tu m'as donné une deadline, donc je vais arriver sur une petite question de fin. J'aurais bien aimé, je pourrais parler des heures avec toi, Marion. Il y a encore plein de sujets qu'on aurait pu aborder. Peut-être que ça fera l'occasion d'un deuxième épisode. donc du coup, je propose de répondre à mes petites questions de fin. Est-ce qu'il y a trois choses que tu fais dans chacune de tes journées et qui te permettent d'exprimer pleinement ton potentiel?
Du sport.
Trois habitudes. Ouais.
L'exercice physique, parce que moi, le repos me fatigue. C'est bizarre, hein?
Non, c'est pas bizarre. Moi,
l'exercice physique me défatigue. Donc, c'est une. Là, quand il pleut, ça m'énerve de ne pas pouvoir le faire. Alors, donc, je vais marcher. Mais l'exercice physique, ça, c'est vraiment bouger pour vous défatiguer. Parce que c'est un défatigant, parce que ça vous permet d'éliminer des toxines. Avec la transpiration, vous éliminez même des métaux lourds qui sont partout. Alors c'est vrai que dans ma chambre, j'ai un appareil qui a un certain coût que le professeur Castronovo m'a conseillé de prendre, qui s'appelle le Bio, B-I-O-W. C'est espagnol et je l'ai au pied de mon lit. Et je mesure d'ailleurs la pollution de l'air. Et c'est là où cet été, par exemple, je descendais rarement en dessous de 20 en pollution, 20 ppm, parce que il pleuvait pas, je suis dans le sud, et dès qu'il pleut, j'arrive à descendre à 4. Parce que l'appareil va filtrer toutes les poussières, tous les acariens, toutes les cochonneries, va te balancer des ions négatifs, il y a une espèce de petite soufflerie en fonction de la toxicité. Et par exemple, j'étais dans un studio l'année dernière, Et il y avait des gens qui avaient fait une grillade à côté, donc il y avait des vapeurs de grillade. Et là, il est monté à 230. Et il disait, attention au risque mitochondrial, parce que vous savez, mais vos mitochondries, elles travaillent avec l'oxygène, avec l'air que vous respirez et avec vos aliments et vos nutriments. Et donc, j'ai dit, waouh, tu te rends compte? Alors, si un mec fume à côté de toi, mais tu t'intoxiques, je ne supporte pas l'odeur de la fumée. Donc, je peux être très mal élevée quand quelqu'un fume à côté de moi. Je dis, écoute, tu t'éloignes. Même ça peut être le PDG de ce que tu veux, je m'en fous. Il fume en dehors de ma vue. Parce que et puis quand j'arrive dans une gare, il y a tous les mecs qui descendent du train et qui se mettent à fumer. Eh ben, je retiens ma respiration pour passer leur passage. Parce que chez moi, c'est très intoxiquant la fumée de cigarette. Donc voilà. Donc la respiration est très importante. J'ai même acheté un espèce d'aspirateur qui s'appelle le Delphine. Je sais pas si tu connaissais. Delphin. D-E-L-P-H-I-N. C'est un truc génial. Hein. Oh là là. Ce truc. Donc je te dis parce que l'air, on est dans un air ambiant et c'est toute la journée. Hein. Alors c'est vendu que par démonstration. Hein. Et je vous donnerai le nom du mec qui me l'a vendu. Je l'ai découvert sur le salon. Et tu peux aspirer tes matelas, tes tapis et tu peux même le mettre en position pendant 10 minutes dans ta pièce avec des huiles essentielles. Il te montre la poussière qu'il y a dans les pièces. Et ça t'aspire tous les acariens, les trucs de mouches. Tu imagines pas toute la merde qu'on a dans notre air ambiant, surtout ceux qui habitent en ville, à Paris ou autre. Waouh! Donc, c'est un outil génial. Et ça travaille avec de l'eau. Et l'eau était noire. Ah, je me dis, oh là là, c'est un truc de dingue. Donc, ça, c'est la deuxième chose. Une des troisièmes choses, c'est que je lis toujours avant de dormir, parce que ça m'aide à m'endormir. Et en termes d'alimentation, comme j'ai mon capteur de glucose, ben je vérifie mon alimentation, mais je mange toujours une protéine animale par jour ou deux. J'adore les œufs, donc ça tombe bien. Bien sûr, plein de légumes. C'est vrai que je mange pas mal de salades et compagnie, des légumes vapeur, une petite protéine, du foie de veau. Il se trouve que j'ai un très bon boucher qui a que des labels rouges, etc. Il n'y en avait pas cet été, hein, parce qu'il dit, ah non, il fait trop chaud, je peux pas avoir de foie. Et donc là, du coup, j'en achète. J'avais besoin de faire des petites pâtisseries cétogènes, mais j'en ai plus besoin. Mais j'avais mis en bas de mes liens mon petit gâteau que je fais à part de poudre d'amande, de beurre, d'œufs et d'érythritol, parce que le xylitol a un indice glycémique de 8 et l'érythritol 0. Quand j'ai envie d'un petit peu d'une céréale, bah, je prends du konjac. On en trouve sur Internet beaucoup moins cher que dans les magasins diététiques. Donc, je le trouve sur Internet. Et soit des lasagnes de konjac, c'est zéro glucide, c'est génial. Et en plus, ça nourrit votre microbiote. Les Asiatiques ont beaucoup l'habitude de manger ce tubercule. Voilà, c'est des trois choses très importantes en termes physiologiques, alimentaires. Hein, je parle pas de « j'ai un chien, j'adore les animaux, je promène, j'appelle ma fille 4 fois par jour. C'est moi parce qu'elle est très occupée. Là, demain, justement, fêter l'anniversaire de ma petite fille, voilà.
Magnifique. Et sur une dimension plus philosophique, du haut de tes 68 ans, qu'est-ce que ça veut dire pour toi réussir sa vie ?
Qu'est-ce que ça veut dire de quoi ? Refaire sa vie ?
Non ? Réussir sa vie.
Réussir sa vie. Ouais. Ben, c'est réussir à trouver la paix, d'accord ? Et être en paix avec toute sa famille. Avec ma mère, ça a été plus compliqué. J'ai mis beaucoup de temps. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Il a fallu cet accident là récemment pour que notre relation soit fluide. Parce qu'on a un passé composé ensemble avec des beaux-pères. Je le dirai dans mon livre quand je le ferai, quand je serai très vieille. Ou quand elle aura disparu, parce qu'il s'est passé des choses. Et donc, être en relation, la relation pour moi c'est très important. Je vous savais, je suis Verseau ascendant en bélier. Et j'ai très très mal vécu nos emprisonnements dans les années 2020, j'appelle ça des emprisonnements, ces confinements. Heureusement, ma fille était avec nous, avec son compagnon, elle était enceinte. Donc ça a été une période géniale parce que on était ensemble. Mais pour moi, ne pas pouvoir partager, je faisais beaucoup de conférences avant, j'en fais beaucoup moins, donc du coup, Je suis devant ces trucs informatiques, mais je préfère tellement être en relation avec les gens. C'est pour ça que je suis allée à Artemisia faire une conférence. Là, je vais en faire une à Bioharmonie le 10 décembre à Montpellier. J'en fais une autre à Saint-Jean-Cap-Ferrat, là, je sais plus où, quand. Bon, faut regarder, quoi. Parce que moi, être en relation avec les gens, on a 5 sens, voire 6 sens. Donc, c'est très important, le partage. Et le partage, pour moi, est amour et partage, c'est mon mode de vie. Parce que même si on est financièrement à l'abri et qu'on se sent bien, et que moi j'ai fait beaucoup d'immobilier, et c'est grâce à ça que j'ai pu vivre dans des bonnes maisons, j'ai gagné beaucoup plus d'argent dans l'immobilier qu'avec le Vitaliseur, où je n'ai pas augmenté depuis 20 ans ce que je gagne. Donc l'immobilier pour moi était une très très grande manière de passer des niveaux. Je suis très bonne en immobilier. Il se trouve que mon père était là-dedans et je sais connaître les emplacements et faire des plus-values, pourvu qu'on puisse encore en faire. Donc voilà. Et le partage, pour moi, c'est très important. C'est pour ça qu'on va faire un congrès. Quand on a arrêté les congrès en 2015, ça a été pour moi un nervous breakdown parce que j'adore ça et on n'avait plus le temps d'en faire. Et comme c'est mon fils qui dirige, il m'a dit « Maman, on va en faire un autre congrès ». Et de ce congrès, croyez-moi, je vais vous envoyer des gens extraordinaires. Et il y a une ambiance chez nous que vous n'aurez nulle part ailleurs parce que j'adore cette ambiance où on se sent chez soi. Moi, je me sens chez moi dans les congrès et je me sens dans une communauté, dans une famille. Et c'est ça que j'adore partager avec les gens. Voilà.
Bah, ça me donne vachement envie d'y aller. Et sur ce sixième sens, cette notion de partage…
On l'a pas mis en ligne. Hein. Il n'y a que 900 places, ça va aller très, très vite.
Ouais, écoute, tu me donneras le lien pour que je puisse l'ajouter à l'article. Et juste pour la parenthèse sur ce sixième sens, ce côté partage, amour, etc. On parlait tout à l'heure des différents cerveaux. À la base, tout était dans le cortex, dans le préfrontal, etc. Et puis après, on a commencé à parler du microbiote, de notre second cerveau. Et maintenant, il commence à émerger un troisième cerveau qui est le système nerveux intracardiaque, les neurones du cœur, dont on s'est aperçu qu'ils étaient capables d'émettre un champ électromagnétique qui dépasse le corps et qui touche et synchronise les personnes autour de soi, notamment avec cette étude que j'ai trouvée folle qui montre qu'une mère peut synchroniser avec son bébé sans même qu'il y ait de contact physique entre eux. Donc, il y a quelque chose d'intangible et ça, c'est prouvé par la science. Et enfin, pour moi, tu vois, je trouve que ça remet quand même en perspective notre vision des choses. On en revient à ces interactions, à l'homéorésie, etc. Donc ouais, je trouve ça très beau, très intéressant.
Je peux témoigner si tu veux. Je peux témoigner parce que quand ma fille est née, moi, j'ai toujours des accouchements difficiles. Hein. Comme ma mère a eu que des césariennes, moi, je voulais absolument accoucher par voie basse. J'ai mis de nombreuses heures. Mon fils, 2 jours. Ma fille, heureusement, seulement 1 journée. Et quand elle est née, elle était un peu froide. Ils l'ont mise en couveuse à côté de moi pour la réchauffer. Et elle braillait, elle braillait, elle braillait. Et elle a tourné ses yeux vers moi. Et instantanément, elle s'est arrêtée de pleurer. Deuxième chose, pendant mon accouchement, je vois la gueule de l'accoucheur qui change de tête. Et je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Il dit, elle arrive par un siège, vous avez 10 minutes pour qu'elle se retourne. Oh, la panique! Eh bien, je peux vous dire, je l'avais déjà appelée Marine. J'ai dit, Marine, s'il te plaît, je l'ai visualisée. J'ai dit, s'il te plaît, retourne-toi. Je la visualisais en train de se retourner et de mettre sa tête dans la zone pelvienne. Et elle s'est retournée. C'est extraordinaire. Moi, j'en ai encore la chair de poule parce que je pensais, je savais pas que ça marchait, quoi. Tu sais, j'ai 33 et demi. Je savais pas que ça marchait. Et ça marchait. Oh, et j'ai pu accoucher normalement. Alors là, c'est extraordinaire. Donc, je dis aux mamans, si vous avez un problème comme ça qui arrive, branchez-vous sur votre enfant, connectez-vous. L'autonomie, c'est la réalité. Connectez-vous avec votre enfant, l'allaitement c'est tellement important, allaitez votre enfant au sein et non pas avec ces saloperies de produits laitiers en poudre dans lesquels il y a plein de trucs pour les empêcher d'avoir de la diarrhée. Donc allaitez vos enfants. Et là-dessus, ma fille a fait beaucoup mieux que moi parce que moi, quand à 2 mois et demi, je savais pas qu'il y avait des étapes. On n'avait pas Internet à l'époque. Hein. Donc, on avait « j'attends un enfant, point barre hein. ». Donc, elle a fait beaucoup mieux parce qu'elle avait toutes les techniques. Donc, bref, voilà. Donc ça, c'est pour aller dans ton sens, que la cohérence cardiaque et bien sûr se synchroniser. T'as vu, t'as des gens, quand ils arrivent dans une pièce, ils te foutent mal à l'aise. Ils te foutent mal à l'aise parce qu'ils sont pas synchronisés, c'est à côté de leur pompe, ils sont négatifs. Ceux-là, moi, je les fuis. Hein. Ou alors, on arrive à synchroniser. Une fois, je me souviens, et après, on va terminer parce que j'ai quelqu'un allé chercher la gare. Je tombe, je devais acheter une voiture avec un financement, la nénette hyper désagréable derrière le bureau, et je me dis, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle doit souffrir cette femme pour être aussi désagréable. Et j'ai commencé à je sais pas si on appelle ça synchroniser, mais à être en compassion avec elle, en empathie, en me disant qu'est-ce qu'elle doit souffrir. Puis j'ai dû lui poser une question, puis après elle me lâchait plus, elle est dans le couloir, tiens, je vais vous présenter un tel, elle a été adorable. Voilà, c'est ça qu'il faudrait qu'on fasse dans notre vie plutôt que de se battre pour des frontières.
Est-ce que tu aurais un défi à donner à nos auditeurs pour les 15 jours à venir? Quelque chose qu'ils pourraient faire tous les jours ou bien une seule fois à expérimenter pour évoluer dans leur développement?
S'ils font pas d'exercice physique, déjà d'en faire, d'arrêter le sucre qui leur noie le cerveau et qui les rend dépendants, qui les rend drogués et fatigués et compagnie, arrêtez le sucre, hein, déjà, les boissons sucrées, arrêtez votre petite bière le soir, prenez de l'eau pétillante avec du citron dedans si vous voulez, mais arrêtez les boissons sucrées, c'est déjà tellement une drogue chez les gens, leur petite bière, leur petit apéro du soir, etc., parce que le travail sur la conscience, c'est tellement quelque chose à tiroir en fonction de votre plan de vie. Et je dirais, j'espère que tu m'enverras le lien de ce qu'on a fait ensemble, parce que pour moi, je fonctionne comme ça étant TDAH. Eh bien, j'écoute, je réécoute, et en réécoutant, il y a des trucs que je croyais avoir entendus que j'ai pas entendus. Je me dis, mais elle l'a dit ça. Et c'est comme s'il y a des portes qui s'ouvrent au fur et à mesure que vous réécoutez. Donc, écoutez, réécoutez, réécoutez tous les trucs que vous trouvez intéressants. Et vous verrez que il y a des trucs que vous aviez pas percutés la première fois, parce que des fois quand on écoute, surtout comme c'est un peu long comme podcast, eh bien votre cerveau s'en va dans ses propres pensées et il revient et vous n'êtes pas conscient de ce moment-là. Donc raccrochez-vous. C'est pour ça que le seul moyen de tout entendre, c'est de le réécouter plusieurs fois.
Puis il y a une question de momentum aussi. On prête notre attention en fonction de ce qui nous importe sur le moment, et ça peut être fluctuant. Et sur ce fait de réécouter, je partage juste un dernier petit truc. Je fais avec un ami Slim. On a appelé ça Snapshot. Tous les mois, on se fait un petit podcast d'une heure tous les deux. Et on parle, on philosophe en fait sur nos vies de trentenaire, plein de questions. Et donc, c'est des conversations entre amis complètement ouvertes qu'on publie malgré tout pour ceux que ça pourrait intéresser. Et moi, je les réécoute et ça me permet de voir comment ma pensée évolue au fur et à mesure du temps. Et cette espèce de ligne en pointillé de la façon dont je me construis est vraiment une ressource extrêmement riche dans ma construction personnelle. Donc voilà, j'avais envie de partager cette petite habitude. Je te propose de terminer sur les 3 minutes qui nous restent par un petit check-out en écho au petit check-in qu'on a fait en début de podcast. Est-ce que tu as passé un bon moment et dans quelle énergie est-ce que tu es maintenant?
Ah oui, moi là, je suis au top là. Tu es quelqu'un avec qui le partage est fluide et bienveillant, voilà. Et donc forcément, ça nous met dans une disposition où on se sent en sécurité, où on se sent entendu et compris. On est bien évidemment sur la même longueur d'onde, et donc c'est un moment de partage très agréable. Oui.
Merci Marion. Eh ben écoute, pour moi, j'ai énormément de gratitude pour cette conversation avec toi qui était riche et passionnante, que je réécouterai avec avec beaucoup de bonheur parce que t'as quand même partagé beaucoup beaucoup d'outils, t'as cette capacité. Comment ?
J'en ai plein d'autres, mon Dieu.
Oui, j'imagine. Mais donc il faudra qu'on fasse un deuxième podcast pour aborder d'autres sujets prochainement. Mais donc un grand merci pour ton temps, pour tous ces conseils si précieux, pour ton travail de façon générale, même indépendamment de ce podcast, pour les livres que tu as écrits, pour ton Vitaliseur. Je trouve que même si il y a une dimension commerciale et c'est normal, derrière tu participes à rendre d'une certaine façon le monde meilleur et aider les gens, et en ce sens voilà, je trouve que merci d'exister, en fait.
Merci David, merci beaucoup. Et toi aussi, parce que tu fais ton bon boulot avec une communauté auquel j'ai pas forcément accès, avec tous les sportifs, etc. Et donc, je suis très contente s'ils peuvent nous écouter, nous faire confiance et suivre notre chemin.
Merci Marion, belle journée à toi et beau week-end. À bientôt.
Tu connais l'effet papillon ? Un battement d'ailes peut changer le monde. Alors si cet épisode t'a plu, partage-le autour de toi. Pour ne rien oublier, sache aussi que tu peux retrouver les meilleures citations et hacks dans l'article lié sur limitless-project.com.
As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B, and advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right, over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs. Also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about Wix. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be, to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com/results to claim your credit. That's linkedin.com/results. Terms and conditions apply.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening on Amazon Music is included with your Prime membership. Just head to amazon.com/adfreenewspodcasts to catch up on the latest episodes without the ads.
Enjoy thousands of Acast shows ad-free for Prime subscribers. Some shows may have ads.
JamesAllen.com is the online destination to easily design a customized engagement ring and save up to 50% compared to traditional stores. You pick a diamond, whether it's lab-created or earth-created, James Allen has over 200,000 conflict-free stones. Then you pick your ring setting and metal. And if you need some help, they have real-time diamond consultations available where an expert can walk you through it all. Get 25% off your order at JamesAllen.com code ACAST. That's JamesAllen.com code ACAST.